Excellent, eh ben c'est parti. Donc enchanté, je suis Victor, je suis partie de l'association Terre de Lutte. On anime depuis le mois de septembre-octobre une série de webinaires sur ce qu'on a appelé les réseaux de soutien des luttes, les réseaux outils, et toutes ces choses qui sont de l'ordre de des réseaux de ravitaillement, des mutuelles de matériel, des réseaux de soins, qui sont eh ben des supports absolument essentiels à toutes nos luttes, qu'elles soient d'ailleurs des luttes écologistes, sociales, sociétales, etc., qu'elles soient aussi des luttes contre les idées d'extrême droite et réactionnaires qui progressent en ce moment. Et l'idée de cette série de webinaires, c'est surtout de mettre en avant eh ben plein de gens, de collectifs, et de personnes qui mettent en place ces réseaux-là, qui les organisent, qui les pérennisent, qui y travaillent un peu toute l'année. Justement pour se donner un petit peu des conseils, des idées sur comment le faire, comment s'organiser, comment multiplier ce genre de collectif un peu partout. On voit bien que évidemment tous les territoires sont différents et les milieux militants aussi, mais qu'il y a quand même des traits communs et plein de choses qu'on peut apprendre les uns des autres. On est là pour ça, apprendre un peu des uns des autres. Et ce soir, nous allons parler des lieux en lutte. On a voulu faire celui-là, ce thème-là, parce qu'on voit absolument très bien que depuis à peu près toujours, mais encore plus ces dernières années, on a absolument besoin de lieux pérennes pour s'organiser, tout simplement pour se rencontrer, avoir des endroits eh ben, safe d'organisation collective, de stockage de matériel, parfois des activités économiques, et puis parfois des lieux qui permettent aussi de s'ouvrir à l'extérieur et d'avoir une activité ouverte aux habitants du territoire où on est, peut-être des bars associatifs, peut-être des locaux associatifs, etc., qui permettent aussi de créer du dialogue et d'aller là où on a besoin d'aller pour convaincre. J'ajoute qu'une super étude est parue il n'y a pas très longtemps qui raconte comment la fermeture de milliers de PMU à travers la France est aussi un lien direct avec la montée des idées d'extrême droite et le repli sur soi et les idées réactionnaires, dans le sens où aussi c'était des lieux qui jouaient un rôle très très fort de dialogue et de discussion à l'échelle locale. Et en leur absence, eh bien, ces idées-là progressent. On va se demander ici, du coup, pendant cette petite heure et demie que va durer ce webinaire, bah, comment ces lieux-là sont des bases solides d'organisation, comment est-ce qu'on s'autonomise et comment est-ce qu'on les crée, on les lance et on les tient. Et on a plein de gens absolument super qui vont pouvoir nous raconter ça et les initiatives qu'ils et elles ont lancées. Je vais les présenter, je vais vous demander de vous présenter d'ailleurs un par un. Et peut-être juste pour finir sur le cadrage, c'est un webinaire. Du coup, l'idée, c'est que ce soit le plus participatif possible. N'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions, à dire aussi si vous avez des attentes, des besoins aussi directement et des choses que vous voudriez que les camarades disent pendant cette heure et demie. On fera un tour de questions plus approfondi à la fin, après les présentations et puis quelques récits un peu plus détaillés sur comment on fait chacun chacune. C'est parti. Et donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter un petit peu qui vous êtes, quels assos et qu'est-ce qui vous a amené à lancer les lieux dans lesquels vous êtes et que vous animez. Si tu es OK, est-ce que William de Ancrage et de la Foncière Antidote, tu serais partant de commencer et vous êtes dans l'Est, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Alors du coup, moi je m'appelle William et donc je fais partie de Ancrage, qui est un lieu que nous avons acheté à Nancy. Et donc la particularité, moi, de mes présentations, c'est qu'à chaque fois je vais essayer de faire en deux temps et en distinguant bien les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a Ancrage, qui est un immeuble que nous avons acheté avec une association à Nancy. Enfin, on s'est constitué à partir de 2020 et on l'a acheté en 2022. Donc on l'a acheté sans subvention sur le modèle associatif et en partant, on va dire, entre guillemets, de rien, à part des luttes un peu antérieures. Et il y a ma deuxième casquette qui est celle de Antidote, et donc qui est comment dire, un fonds de dotation juridiquement, qui permet en fait à des lieux comme Ancrage d'acquérir des biens et de transférer leur titre de propriété pour ne pas pour les mettre. Et en gros, le montage et le lien entre les deux, c'est que nous, on a acheté notre immeuble, on a pris le titre de propriété à Antidote, qui est une structure dans laquelle il y a plusieurs lieux, et Antidote nous a fait un bail de 99 ans, ce qui fait qu'il y a d'un côté la propriété marchande, celle qu'on peut revendre, ce qui nous permet de détruire ou revendre un bâtiment qui est collectivisé, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la propriété de l'usage. qui est vraiment donc entre de Ancrage, qui est le bâtiment, et l'association et le collectif qui est basé à Nancy. Et donc nous, en fait, on fait usage de cet immeuble-là bah, tant qu'on est dedans, et le jour où on n'y sera plus, on ne pourra pas revendre le bien, il faudra trouver un autre collectif. Et pour le dire en deux mots, Ancrage, c'est une association qui est dans un quartier populaire avec un rez-de-chaussée où on fait surtout de l'imprimerie, de l'accueil, des ateliers avec les gamins du quartier. On fait beaucoup de créations d'images, de livres, beaucoup de autour de l'imprimé. Un premier étage d'organisation associative, de réunion et tout ça, de cantine. Et on a deux étages de logement. Et j'y reviendrai probablement dans un second temps, mais ça a une place importante aussi, parce qu'on permet à des personnes qui n'ont pas forcément les bons papiers, ou qui sont pas forcément en capacité d'avoir les logements au prix habituel du marché, ça permet de se loger, et en même temps, ça permet aussi de faire rentrer des sous dans l'association. Donc voilà, il y a un peu toute cette dynamique-là que je pourrais détailler. Et après, pareil, Antidote, c'est un gros morceau, mais globalement, vous avez un peu l'idée là que j'ai résumée.
Excellent, merci beaucoup et bienvenue. On va pouvoir parler de tout ça en détail juste après. Pour la suite, je passe la parole à l'association A4. A4, c'est pour Association d'accueil en agriculture et artisanat. Je crois que Habib et Agathe, vous êtes là. Et du coup, vous êtes en train de lancer une ferme collective, si je ne m'abuse.
Habib commence.
Oui, bonjour. Il y a Tariq, je crois, ici. On est trois, je crois, si je ne me trompe pas. Habib, Tariq et Agathe. Oui, nous, on est en train de lancer, on est en train de lancer un achat d'une ferme de l'Essonne à Marc aussi, dans le 91. Parce que ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, depuis qu'on a lancé l'association A4. Et pour cette ferme-là, elle est très importante pour nous, en tout cas, surtout dans un contexte qu'on a. On veut acquérir des fermes pour pouvoir, nous, on a passé notre vie dans le milieu squat, en tout cas, ZAT et tout ça. C'était pas stable du tout. Ça devient l'idée, en fait, d'obtenir cette ferme-là, qui va nous permettre, en fait, avoir des possibilités de commander ça. D'organiser par rapport à la lutte, aussi d'être autonome aussi dans les formes, parce que quand on a commencé l'assaut, on a eu que des petits bails précaires, en tout cas, ou des commandes qui sont finis. Soit le personnel n'est pas envie de renouveler, soit le PLU, il change, en tout cas, la mairie, il vient de prendre le terrain, quoi. Donc, c'est pour ça, là, c'est le moment où pour nous, on dit, bah, il nous faut un terrain, en tout cas, il nous faut une ferme. Pour pouvoir continuer la lutte qu'on porte dans A4, parce qu'une ferme A4, ça veut dire en fait sur les questions agricoles, c'est comment on peut faire la transmission de savoir faire agricole par rapport à les personnes étrangères qui arrivent ici, qui ont des compétences agricoles artisanales, c'est la première chose. Et deuxième chance, un lieu de lutte. Sur toutes les questions de précarité, et sur la question de justice sociale, la question de l'antiracisme, de formation, en tout cas autour de la politique. C'est ça que l'on veut lancer dans cette lutte-là. Et je laisse la parole à Tari et Agathe pour compléter.
Bah,
Donc,
tu as bien présenté. Vas-y, Tariq.
retour de politesse. Bah, peut-être juste de rajouter que c'est vraiment, oui, dans une perspective aussi de se dire que la question de l'acquisition du foncier sur ces réflexions-là, sur en fait comment on réfléchit l'accueil et aussi par qui c'est porté, c'est aussi pouvoir dire que, bah oui, en fait, quel que soit le statut de la personne, quelles que soient les réalités de l'immigration, etc., on prend la terre aussi dans un moment où symboliquement c'est fort. Je pense qu'on peut faire même des parallèles avec des mairies qui passent avec des personnes racisées. On voit la symbolique que ça représente pour l'extrême droite qui se voit menacée. Et nous, il y a aussi ce truc-là de se dire, bah, en fait, la terre, elle appartient pas qu'à une catégorie de la population. Elle appartient à ceux qui en ont usage et qui veulent faire des choses et qui veulent pas être structurés par des rapports aidants aidés qui mettent sous tutelle des gens et où, en fait, il n'y a pas de possibilité autre, quoi. Et voilà, c'est aussi ça et de développer tout un tas d'activités et c'est aussi le pari de l'asso depuis le début de se dire que si on veut de l'autonomie politique, il faut aussi pouvoir avoir des bases d'organisation. Et notamment économique, enfin vraiment de subsistance, parce que sans ça, en fait, on est à la merci en fait de tout un tas de personnes. Agathe, je ne sais pas si tu veux compléter.
Non, c'est très bien.
Merci beaucoup à vous, et on reviendra de toute façon évidemment sur les questions d'autonomie qui sont assez clés dans ces histoires de lancement de lieux. Et merci beaucoup d'être là. Je vais donner la parole juste après à Juliette. Toi, tu fais partie d'Alternativa et du réseau des bases qui anime toute une série de lieux militants un peu partout à travers la France.
Oui, salut tout le monde. Je fais partie d'Alternativa qui porte ce réseau des bases, donc bases d'action sociale et écologique. Les bases, il y en a qui existent depuis assez longtemps, mais le réseau il s'est structuré surtout depuis 6 ans à peu près. Et donc ces bases, c'est des lieux en fait qui, pour la plupart, actuellement ressemblent à des cafés associatifs et sont souvent portés en interorga, qui englobe plein d'orgas climat sur des sujets de, enfin, social, solidarité. Mais aussi parfois un peu culturel, mais c'est surtout climat au départ. Et du coup, dans ces interorgas, souvent il y a Alternativa et Action non violente COP21. Et parfois c'est pas en interorga. Voilà, il y a une douzaine de bases actuellement en France. Et du coup, c'est des lieux d'organisation collective. Surtout, donc c'est là où plein d'orgas viennent organiser leurs réunions, stocker leur matos, etc. Et aussi faire de la programmation qui est visible au grand public avec une volonté vraiment d'accueillir un maximum de monde pour trouver des portes d'entrée dans l'engagement pour des gens qui se préoccupent des sujets climat, justice sociale, tout ça. Du coup, ces bases, elles sont surtout pour l'instant en ville, dans des grandes villes, mais aussi des petites villes. Je crois que la base dans la plus petite ville, c'est à Auch, où il y a 20 000 habitants. Et voilà, et c'est des lieux qui sont entièrement militants et qui ont pour but, du coup, de s'intégrer dans la dynamique militante de la ville, du quartier, et de la structurer, de donner plus de force. C'est des lieux qui sont entièrement apartisans, donc qui sont pas reliés à des syndicats ou des mouvements politiques ou des municipalités, etc. Et du coup, qui ont plein de manières différentes de s'organiser selon le contexte local, les orgas motivés, elles prennent plein de formes différentes. Et du coup, moi personnellement, je suis à Grenoble et du coup, j'ai contribué à créer la base de Grenoble et le bocal de Grenoble. Le bocal, c'est une deuxième base, on va dire, le nom bocal, c'est pour base d'organisation collective des alternatives. Et donc, c'était pour montrer un peu qu'on peut avoir deux façons de faire vivre un lieu sur deux dynamiques différentes. Une plutôt action, campagne, etc. Et une autre qui s'organise plutôt autour du lien avec le quartier et des événements plus festifs. Et ces deux lieux existent depuis 4 ans. Donc voilà, il y a plein de choses à raconter sur comment est-ce qu'on fait naître un lieu, mais comment on le fait perdurer avec les questions de mobilisation de bénévoles, les questions d'indépendance politique, etc. Mais ça, je pense qu'on va l'aborder plus tard. Donc, je m'arrête là.
Précisément, on va y revenir. Et merci beaucoup pour tout ça. Je le redis, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou à poser aussi des envies, des intentions. Voilà. Et je vois que William, tu as mis le petit descriptif de Antidote. N'hésitez pas aussi à mettre des documents utiles qui vous semblent utiles à partager dans le chat. Ça sert à ça. Et pour conclure le petit tour de présentation, je donne la parole à Tic, qui, au-delà d'être un spécialiste de blagues de dinosaures, est aussi à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et il peut-être qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même te demander de présenter, notamment parce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi pas mal de lieux qui ont beaucoup contribué à la lutte de plein de façons différentes.
Oui, bonjour tout le monde. Ouais, je vais pas représenter là. Moi, je suis là depuis une dizaine d'années, donc en fait, ça fait plus d'années après l'abandon du projet. Et juste peut-être rappeler que l'abandon du projet... Et il y a eu plein de tensions sur ce qui allait se passer ici, mais notamment un agenda de l'État qui était très sur une ligne agricole. Ici, il ne pourra se passer que des choses agricoles. Et il faut imaginer ce territoire rural, mais qui est au bord de la métropole nantaise. Et du coup, le maintien des activités sur place, notamment beaucoup l'installation paysanne, comprendre les enjeux autour des terres au-delà de ce qu'avait été le mouvement pendant l'occupation. Et du coup, d'installer des fermes et des choses comme ça, mais comment garder aussi une campagne vivante, toujours dans la suite d'une autonomie matérielle et politique. Et du coup, il y a eu toute une bataille foncière, beaucoup moins connue que celle contre l'aéroport, mais aussi tout un tas d'enjeux, si on parle des lieux, sur des questions d'urbanisme, de rapport aux mairies, et du coup, bah, dans des... rapports de force qui peuvent exister sur place, des fois des formes de négociation, des choses qui peuvent arriver, mais avec des cas, il y a une trentaine de lieux avec des cas très différents. Et du coup, il y a 7 communes différentes. Et du coup, les questions qui nous traversent en tant que petit territoire, c'est les solidarités entre ces lieux face à des logiques institutionnelles qui ne sont pas aux mêmes endroits. Et peut-être ce soir, moi, je pourrais vous parler de 2 lieux qui sont ce qu'on appelle l'espace accueil et la bibliothèque du Talus. Il y a un lieu en bord de route qui s'est monté il y a 10 ans, et l'Ambasada, qui est un lieu autoconstruit qui s'est monté avec des comités basques. En 2017, on commençait des grands chantiers et qui permet d'accueillir tout un tas de gens de plein d'endroits différents. Et peut-être, moi, si on a des discussions, je pourrais avoir des angles justement sur... défense administrative sur les questions d'urbanisme, et aussi c'est quoi un lieu, c'est quoi des chantiers, faire vivre des chantiers pour faire vivre des lieux. Voilà, j'ai dit.
Alors, pardon, je suis vraiment désolé, j'ai été déconnecté de cette réunion, malheureusement. Mais si tu avais fini de parler.
Et mais ouais, c'est bon pour moi, on peut lancer.
Super, désolé de ce petit contretemps. Et bien, justement, peut-être pour continuer la discussion, j'avais envie de vous poser la question tout simplement déjà pour aller un peu plus loin dans le descriptif de bah, vous, qu'est-ce que vous, concrètement, vous avez choisi d'y faire dans ces différents lieux? Vous avez déjà mentionné quelques différentes choses, que ce soit de la formation politique, que ce soit de l'accueil, que ce soit de l'ouverture et du dialogue vers l'extérieur, ou même des activités économiques. Mais évidemment, tout ça, ce sont des choix politiques et des choix stratégiques. Et j'imagine que vous ne faites pas tout ça, évidemment pas ça au hasard. Donc, je voulais aussi vous interroger un petit peu déjà pour commencer là-dessus sur... Qu'est-ce que vous faites dans ces lieux depuis les années que vous les animez, et en quoi ça vous est particulièrement utile dans votre activité militante? Et est-ce que William, tu es partant de commencer?
Yes. Alors, je vais essayer de faire du coup très résumé pour pouvoir dire à chaque fois aussi encore un mot sur Antidote. Du coup, pour commencer avec Ancrage, en fait, nous, on part vraiment d'une lutte de quartier. Je dis en deux mots, évidemment, c'est plus long. C'est une MJC dont il y a la moitié qui devait être rasée par la ville pour faire de la promotion immobilière. Il y a un collectif d'habitants et d'habitantes qui se mobilisent. On a gagné la lutte pour préserver notre MJC. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bon, bah, comme à la ZAD, mais en plus petit, quoi. Ça se bastonne pour savoir est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir. Nous, on fait le choix de racheter un bâtiment dans le même quartier. Et un peu notre cœur à la base, c'est de dire, OK, globalement, le service public, il se fait attaquer, il se fait défoncer. Et ça prend aussi la forme de MJC qui même sont menacés d'être rasés, alors que ça paraît être un non-sens total. Et comment on peut faire pour défendre des choses qui sont censées être publiques, sachant que maintenant, même les politiques de droite peuvent arriver à dire « Non, mais en fait, ça, c'est privé, il n'y a pas de problème. » C'est ça, en fait, qui est en train de se passer à grande échelle dans notre société, quoi. Et ce qui se passe à notre petite échelle, on se dit « OK, c'est qu'on n'a pas envie d'être des propriétaires privés, on n'a pas envie de monter des SCI, on n'a pas envie d'acheter un bien pour pouvoir avoir chacun des parts et être, entre guillemets, des petits sociétaires ou actionnaires d'un lieu. » Plutôt parce qu'on a une formation, on vient plutôt des milieux un peu du squat, plutôt de tendance un peu anard, et en fait, ça ne nous parle pas d'être propriétaire. Et dans le même temps, se battre pour du service public, on trouve que ça fait sens, mais qu'à moitié, parce que de toute façon, il faut toujours avoir une grosse langue de bois, et les financements, c'est de plus en plus compliqué. Et puis là, j'imagine que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui le savent, c'est vraiment en train de devenir la merde, sérieusement. Donc en fait, on raccroche un wagon qui est celui des communs. Et historiquement, en fait, dans l'histoire, il y a un truc qui s'appelle les communaux, les communs, les endroits où avant la Révolution française, il y avait des personnes qui pouvaient partager des espaces et se dire que ça appartenait ni à du privé, ni à du public, mais ça appartient aux gens qui ont l'usage pour faire paître des animaux ou ce genre de choses. Et en fait, avec Antidote, on remet du commun à des endroits. Et nous, on essaye, notre fil idéologique, c'est de dire on n'est pas du privé, on n'est pas du public. On est des espaces communs qui appartiennent du coup qui appartiennent à personne et qui sont pour l'usage de tout le monde, quoi. En gros, la philosophie, c'est ça. Et du coup, concrètement, ça veut dire quoi dans un quartier comme le nôtre? Ça veut dire on est ouvert. S'il y a des temps où on est ouvert de manière inconditionnelle, c'est-à-dire c'est gratuit, c'est toutes les semaines et c'est pour tout le monde. Très concrètement, on essaye de vraiment d'avoir une attention à être toujours ouvert pour les personnes les plus éloignées de, on va dire, des trucs comme typiquement la MJC. Il y a des gens qui passent tous les jours devant la MJC, par exemple, mais ne savent pas que c'est une MJC, juste parce qu'en fait, ça leur est pas, c'est ouvert, mais ça leur est pas adressé. Donc nous, on fait en sorte d'avoir une attention aux personnes immigrées ou descendants d'immigrés, aux questions de racisme, aux questions de classe sociale. Et ça veut dire quoi? C'est vraiment comment on lit. Nous, on essaye vraiment d'être hyper local et hyper international. Et voilà, je peux juste vous raconter la journée d'hier parce que c'est mercredi. Mercredi, c'est le jour des enfants. Donc, les enfants, ils viennent, les familles. Et en fait, on fait aussi des activités avec on fait aussi des présentations, des présentations de gauchistes, quoi, comme tout le monde connaît, j'imagine, où en fait, on fait venir des intervenants. Et là, hier, c'était la troisième année du coup d'État au Soudan, et donc on a une présentation de Soudfa, de Hamad, qui est venu faire la présentation de son média soudanais. Ça, c'était le soir, il était là toute la journée, et puis du coup, en fait, on s'est rencontrés, et puis il y avait les enfants du quartier, et en fait, nous, on a vraiment pris à bras le corps, par exemple, la lutte palestinienne, et ce qui fait qu'en fait, on a rencontré aussi des personnes, et il y avait beaucoup de personnes qui s'organisent à la base plutôt par la communauté musulmane, et en fait, qui se sont dit, ah bah tiens, eux, ils ont l'air sympas. Ça leur a permis de se réunir et des fois de faire des trucs aussi dans notre lieu. Et puis les gens du quartier, ils se sont dit « Ah bah tiens, c'est un peu original ». Et donc du coup, les gens du quartier sont venus par ce biais-là. Et en fait, ça a vraiment… Il y a eu un peu… quand on a ouvert le lieu, c'était en 2022. Après, la tragédie, elle a commencé en 2023 avec la Palestine. L'ouverture du lieu, en fait, elle s'est faite sur « Ok, nous, on a notre logiciel d'anarchistes qui veulent s'intéresser aux questions internationales ». Et en même temps, on a envie de sortir des habitudes militantes un peu poussiéreuses. Et donc, on s'est dit, vas-y, on va ouvrir à fond sur le quartier, mais par en voyant ce que les gens, ils ont envie d'y mettre. Et ce qu'ils y mettaient, c'était besoin de faire des bouffes, venir faire garder les enfants ou partager des trucs d'éducation, faire des trucs un peu internationaux, internationalistes comme ça, faire des soirées de soutien pour envoyer de l'argent à Gaza, ou après imprimer des tracts, des affiches. il y a des gens qui ont des problèmes de papier, qui viennent nous demander des coups de main, ce genre de choses, quoi. Ça, c'est le volet vraiment ancrage. Et juste, je dis une phrase pour essayer d'habiter aussi le truc Antidote un peu à chaque fois. Antidote, faut comprendre que c'est vraiment une structure lourde qui a vocation à faire exister la lutte contre la propriété privée. Et pour ça, en fait, on estime que collectivement, on essaie de créer des garde-fous. C'est-à-dire que notre truc, c'est de dire on ne peut pas abolir la propriété privée parce que nous, on n'est pas une force de transformation sociale trop assez puissante. Par contre, on peut utiliser le droit pour enrayer la machine et donc pour mettre en place des mécanismes de pouvoir, de contre-pouvoir, où les lieux ils sont vraiment décisionnaires, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir une attention à ne pas devenir des petits propriétaires, entre guillemets, parce qu'il y a un truc qui se passe souvent, et parce que du coup, moi, je fais partie de la commission accueil dans Antidote, et on a beaucoup de personnes qui nous sollicitent en disant « Ah, on pourrait faire Antidote », et du coup, qui ne se posent pas beaucoup les questions de la classe sociale, et en fait, on voit beaucoup se reproduire ça, il y a vraiment une logique de qui est propriétaire, de qui a des héritages dans la société, de qui peut avoir accès au foncier, qui peut avoir accès à la terre. Et on a vraiment envie, nous, de questionner ça en ayant un peu un plaidoyer politique dans Antidote et en essayant de ramener un peu cette tradition de lutte socialiste, de lutte de mise en commun, de dire, OK, en fait, la propriété privée, il faut s'y attaquer parce que c'est un point qui traverse toutes nos luttes à différents endroits, quoi. Voilà, pour faire très synthétique, j'essaye.
C'est superbement synthétique. En tout cas, c'est beaucoup de combats à la fois et bravo de faire tout ça. Peut-être pour poursuivre, je vous donne la parole côté A4 à Agathe et Habib, notamment sur le lancement de cette ferme collective. L'intention, c'est donc à la fois de la formation, de l'activité économique. Et vous avez pensé ça, en tout cas avec des postulats très politiques et de soutien à l'association, si j'ai bien compris.
Je commence et Habib, tu complètes, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça, qu'il y a pas mal de volets sur le volet travail économique, qui est à la fois l'idée d'avoir une activité quand même qui tourne pour être un soutien à l'association et sortir aussi de ces dépendances subventions qui, comme ça a été dit, diminuent drastiquement. Mais autour du travail, il y a aussi cette question de la régularisation. Le travail et les fiches de salaire qui rentrent en jeu. Et il y a aussi toujours le travail en développant sa propre activité. Et du coup, le fait d'avoir un foncier, et là, dans les fermes, la ferme qu'on a identifiée, c'est un foncier quand même assez important de 17 hectares. L'idée, c'est aussi d'avoir des espaces pour qu'après, d'autres personnes puissent s'en saisir, parce qu'on voit que la terre foncée, que ce soit les terres ou le bâti, est très compliqué. Nous, je vois qu'à chaque fois dans l'association, c'est souvent, on voit que c'est ça qui bloque. Dans l'équipe cantine, en fait, il n'y a pas de locaux. Pour le maraîchage, donc l'équipe dans laquelle je suis, le maraîchage, en fait, on s'est fait expulser plusieurs fois, et notamment des fois au moment des récoltes, sur les terres qu'on cultivait. Et donc, en fait, d'avoir du foncier terrain pour développer des activités, travailler, en fait, ça, c'est déjà un gros enjeu autour du travail. Et après, comme tu disais, ouais, il y a aussi l'aspect formation, notamment, qui est vraiment pensé aujourd'hui dans le sens de savoir, en disant peut-être tout le monde dans l'association a différentes compétences et des choses à partager. En fait, d'avoir un lieu où on travaille ensemble, ça favorise cet échange de travail, cet échange de savoir. Et d'ailleurs, dans les voyages en quête qu'on fait avec l'association, en fait, on se rend compte que il y avait des agriculteurs, des fois, justement, qui disaient là, avec les dérèglements climatiques, en fait, on a de plus en plus de mal avec nos cultures. Et sur ce, il y avait des gens de l'association qui faisaient des conseils de graines qu'ils pouvaient récupérer du pays pour le proposer à l'agriculteur avec des semences plus résistantes aux sécheresses. Et c'est aussi comme ça que l'idée des tests agronomiques nous est venue, qui est un autre pan de ce qu'on veut faire dans ce lieu, en plus du travail et de la formation. Il y a aussi ces activités de tests agronomiques. Et pour finir, il y a l'aspect rencontre, organisation politique, avoir des lieux qui peuvent aussi servir à d'autres collectifs, d'autres lieux en Ile-de-France, parce que oui, la ferme qu'on a identifiée, enfin tous les groupes locaux cherchent à avoir des lieux et des fermes. Après là, la ferme, on cherche à faire une importante levée de fonds dans les prochains mois. C'est pour une ferme en Île-de-France, un des premiers groupes locaux de l'association. Et c'est aussi cette proximité à la ville, là où beaucoup de gens sont, et là aussi où beaucoup de gens ont des démarches en cours, qui était aussi un aspect hyper intéressant, parce que si en France on interdit aux gens de passer leur permis s'ils n'ont pas les papiers, en fait, l'accessibilité d'un lieu et d'une ferme, du coup, devient plus important. Je ne sais pas si en fait, il manque des trucs que je vous laisse.
Vas-y, Tariq.
Peut-être un peu pour expliciter plus que ce qui était dit un peu au début et pour compléter. Je pense que voilà, la manière dont on pense les lieux, c'est aussi une base d'organisation multiple, avec aussi, enfin, comme ça a été rappelé plusieurs fois, en fait, il y a ce manque de lieux, d'espaces de rencontre, aussi de lois qui, parce que là un peu, enfin, c'était un peu évoqué, mais que la loi Casbarian a quand même, en tout cas dans l'espace des luttes logement et notamment sur les enjeux de régularisation, la question du squat, elle est essentielle, notamment pour de l'hébergement d'urgence. Or, depuis en plus 2 ans, il y a une nouvelle loi, la loi Casbarian, qui a du coup mis à terre en fait tout un milieu politique qui s'organisait dans ces espaces-là et qui étaient aussi des espaces d'expérimentation qui portent aussi leurs limites. Et c'est un peu ce que disait aussi Habib au début sur la précarité aussi de ces temps-là, qui dans lequel voilà, dans lequel on a pu évoluer pendant un temps et où on voit les limites que ça pose en fait d'être dans ces formes de précarité au niveau du temps, même si voilà, il y a des choses formidables qui peuvent s'y produire. Sauf que voilà, comment on pérennise des choses, comment on les pense aussi à travers des pratiques agricoles multiples, et où on sait qu'en plus en Île-de-France, bah, il y a tout un tas de collectifs ou groupes qui pourraient être très motivés de pouvoir collectiviser ces espaces, et qu'en même temps, voilà, que ça soit un lieu de rencontre, mais aussi de se dire de comment on développe des outils productifs pour aussi se dire que en fait, on sort juste de la possibilité de trouver en fait des employeurs potentiels pour de la régularisation, mais de se dire aussi, surtout, on peut le faire par nous-mêmes, que ça soit par les coopératives de travail qui ont ce rôle-là essentiel de se dire en fait il faut que, ben, si les gens ils ont déjà les compétences, pourquoi on va attendre que le déploiement de ce réseau-là, parce que c'est aussi des choses qui se mettent dans le temps long, et qu'en même temps et c'était rappelé un peu par Habib aussi au début, c'est la question de l'avancée de l'extrême droite. Il y a encore 6 mois, parce que je trouve que c'est un exemple très parlant, on était invité sur une table ronde sur est-ce que les idées de l'écologie peuvent se dissoudre dans les théories de l'extrême droite, enfin, ou un titre un peu approximatif comme ça. Et à ce moment-là, on dit en fait assez basiquement que il faudrait être fou un peu pour pas, enfin en tout cas d'être à côté de la plaque politiquement, de pas comprendre que si il y a un tournant réactionnaire au centre de l'Empire avec des polices comme ICE, que ça aura pas des conséquences directes et que des ondes de choc du fascisme en fait vont arriver en Europe de manière ou d'une autre. Et qu'en fait là le chercheur qui est invité avec nous s'est mis à rigoler en disant ouais, vous êtes pas sérieux, etc. Vous imaginez des trucs de ouf qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, je peux utiliser ces mots, pardon, c'est les miens. Mais dans ça, il y a quoi ? Il y a que, en fait, nous, on voit très clairement dans notre agenda politique, et ça depuis le début, qu'il faut accélérer le pas. Il faut accélérer le pas sur les lieux, parce qu'on sait que sinon, on va être balayé à une vitesse extraordinaire. Et pourquoi je prends cet exemple, pardon ? C'est parce que 6 mois plus tard, et là, c'est la fin de mois de mars, en fait, l'Union européenne vient d'autoriser les hubs de centres de rétention, comme ils les appellent, de rétention, à l'extérieur des frontières européennes. En Albanie, il y avait déjà eu le projet avec l'Angleterre et le Rwanda, donc on ne sait pas où va se passer. D'ailleurs, qu'en plus, l'Inde s'est positionnée pour pouvoir accueillir ces centres de rétention. Donc, on a un niveau de, je sais pas, de qui sort de l'entendement total de l'avancée de l'extrême droite, de le recul des droits aussi des personnes étrangères ou des personnes qui ont des titres de séjour en France, qui est le pire, et ça c'est pas moi qui le, c'est pas A4 qui le dit, c'est la CIMAD qui dit depuis qu'on n'a pas eu un recul des droits, comment dire, depuis qu'a de, enfin aussi un recul aussi net que depuis 1945 ou 1950. Donc ça en dit long en fait sur la restriction des droits. Donc en fait, et que cette question des droits, elle se limite pas seulement sur une question de solidarité. Si on limite les droits, si et aussi de toutes les politiques qui sont faites depuis longtemps en France, qu'il s'agit des questions de dématérialisation au niveau de la préfecture. Donc en fait, on vient toujours gratter ou chercher le bouc émissaire de l'immigré. Et c'est le premier à pâtir de l'absence de services publics. C'est le premier à pâtir de, en fait, toutes les dérégulations provoquées par le néolibéralisme ambiant et qui, en fait, a continué à creuser et qui, en fait, sous le prétexte du fascisme, en fait, aussi retire des droits aux gens, quoi. Alors qu'en fait, les gens sont des jalons essentiels à l'économie. C'est vraiment, enfin, bref, ça a un non-sens politique total. Mais dans ce truc-là, en fait, c'est qu'aussi, on va restreindre les espaces de travail ou la dignité respectée. Ça veut dire qu'en fait, si on met les gens dans des situations encore plus merdiques dans lesquelles qu'ils connaissent déjà, on va se retrouver à un niveau où en fait, on veut de la main-d'œuvre pas chère, on veut de la main-d'œuvre cassée, qui soit compétitif avec le marché chinois, avec le marché allemand ou états-unien, etc. On cherche, il y a vraiment cette logique de fond, en fait, de permettre qu'une partie, en tout cas, du patronat français est représentée notamment par le MNEF, mais aussi la FNSEA et aussi la coordination rurale, d'avoir de la main-d'œuvre captive qui sera coincée parce qu'elle aura plus de recours juridique, parce qu'en fait elle va être coincée au niveau administratif, parce qu'en fait les gens, même s'ils obtiennent un titre de séjour, ils le perdent actuellement. Il y a des gens qui perdent leur taf. Il y a plus d'un million de dossiers là qui sont en attente au niveau des préfectures. Et qu'est-ce qu'a dit Nunez pendant ce temps-là? À ce moment-là, on dit oui, on va augmenter de 20%. Mais par contre, on vous introduit l'IA dans le contrôle des dossiers. Donc, on est vraiment dans ce qui est de plus dégueulasse et d'hypocrite. Donc, à un bout d'un moment, si c'est pas des collectifs comme les nôtres qui portent cette question-là du travail en se disant, en fait, c'est quoi? En fait, on va être quoi? À la merci du patronat? Ou est-ce que c'est où on essaie de développer nos choses, enfin nos outils de notre côté? Parce qu'en fait, on voit que c'est inaudible dans les espaces militants que cette question-là du travail. Parce que voilà, et je pense qu'il y a des trucs aussi à discuter, notamment sur des réflexions à la fois de classe, mais aussi de race, sur en fait comment la question du travail, elle n'est pas aussi, elle n'est pas centrale. Enfin, en tout cas, pourquoi elle n'est pas aussi autant appropriée que d'autres thématiques, et que le problème derrière, c'est que ça empêche en fait, je pense, des liaisons et des alliances politiques pertinentes. Et c'est aussi comme ça que, pour le coup, on s'adresse aussi aux agriculteurs, en disant, en fait, c'est parce qu'on est dans des difficultés, mais on parle de paysans du Sud versus paysans du Nord, même si c'est un peu caricatural dans la forme, mais qu'il y a un peu cette idée-là. Donc, en fait, si on met pas cette question-là au niveau du travail central, et même dans nos bases d'organisation, ben on rate quelque chose, et on rate quelque chose notamment avec les classes populaires.
Merci beaucoup Tariq, et du coup effectivement on va revenir aussi sur l'importance des lieux pour être des bases d'autonomie et justement construire à la fois cette parole et cette autonomie matérielle, économique, etc. Dont on a absolument besoin et qui se fait attaquer de partout, hein, évidemment. Et merci de tout ça. Peut-être pour enchaîner, est-ce que Juliette, toi tu veux prendre la parole aussi sur le réseau des bases? J'ai l'impression que le réseau est aussi né à un moment de massification des mouvements environnementaux, des mouvements climat, etc. Et peut-être qu'aussi que tout ce que vous faites, c'est aussi l'aboutissement d'un mouvement qui s'est construit aussi depuis des années.
Ouais, ben c'est vrai que bon, Alternatiba, il y a une centaine de groupes locaux en France et dans d'autres pays, notamment une trentaine en Haïti. Et il se trouve que on s'est rendu compte que en fait, c'était nécessaire et presque vital de s'ancrer dans nos territoires, mais par des lieux physiques, parce que ça répond à plein de besoins. Et en fait, l'accélération dans la création de bases dans le mouvement, là, c'est vraiment arrivé aussi à la période du Covid, où ça s'est vraiment accéléré, parce que les gens avaient besoin de liens sociaux. On aurait pu penser que, justement, les gens se replient sur eux-mêmes, ont beaucoup plus de difficultés à communiquer parce que chacun est chez soi, etc. Et ben, en fait, c'est là qu'il y a beaucoup de projets de base qui sont nés. Et ça correspond aussi à la phase où il y a eu les Gilets jaunes qui ont été dans cet élan de création de Maisons du Peuple, etc. Et voilà. Et du coup, pour décrire un peu plus comment ça se... Qu'est-ce qu'on y fait dans ces bases et qu'est-ce que ça apporte, en fait, déjà, premièrement, c'est tourné vers l'extérieur, ces bases. C'est vraiment des portes d'entrée dans la mobilisation. Le but, c'est d'accueillir des nouvelles personnes sur les luttes, dans les sujets, dans les... Enfin, voilà, les sujets qui mobilisent, qui sont importants en ce moment. Et du coup, de les intégrer, soit parce que le sujet leur parle, soit aussi parce qu'ils ont envie de passer à l'action. Et du coup, ça passe par des trucs tout simples, genre venir cuisiner pour un événement ou servir une boisson au bar pendant une soirée. Et c'est des mini-tâches qui paraissent anecdotiques, mais à force de s'engager sur des petits trucs comme ça, bah, ça permet de s'intégrer et de prendre un rôle plus structurant dans les organisations. Je n'ai pas précisé, mais vous l'avez peut-être compris, mais Alternativa et NVCOP21, c'est vraiment des orgas de mobilisation. Du coup, je vais beaucoup en parler, je pense. Et oui, parce que l'idée qu'on porte, c'est réussir à changer la société parce qu'on est de plus en plus nombreux à incarner une vision radicale du changement de système par l'économie, par les pratiques, par plein de choses. Je détaille pas plus parce que là, on est surtout là pour parler des bases, mais qui sont vraiment un élément majeur de tout ça. Et du coup, j'étais en train de dire que les bases sont tournées vers l'extérieur parce qu'il y a aussi une programmation qui est assez variée, qui permet de tisser des liens avec des partenaires. Donc, les orgas qui sont invités, elles font ce qu'elles savent faire. Donc, il y a des orgas qui viennent parler, présenter des nouvelles actions à faire. Il y a des orgas qui viennent expliquer comment est-ce que on peut changer la finance, la fiscalité ou je ne sais quoi. Bref, voilà. On fait aussi, enfin, les bases. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que j'ai perdu Internet un instant.
Ça a coupé, effectivement, j'ai l'impression.
Ok.
Tu disais, ouais.
Eh ben, je peux reprendre, j'étais en... Je pense que j'ai...
Je crois que ça recoupe, malheureusement. Est-ce que tu nous entends, Juliette?
Oui, je vous entends.
Super, ben, là, ça a l'air de marcher. Je t'en prie.
Allô, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Ah, trop bien. Bon, désolée, je suis en partage de co et du coup, c'est un peu instable. Mais je ne vais pas mettre ma cam comme ça, ce sera plus simple. Et oui, du coup, c'est les bases, c'est vraiment des lieux qui permettent de faire du lien avec le quartier. Et du coup, potentiellement, toucher des nouveaux publics, des gens qui passent et qui ne seraient pas venus à une réunion militante dans une obscure maison des associations. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi des soirées de présentation de lutte locale, de lutte nationale. Et ça permet vraiment de croiser les gens qui viennent pour différents sujets dans un même lieu. Et du coup, de leur donner beaucoup de visibilité. Et ça permet aussi d'incarner plein d'alternatives qu'on promeut par nos discours, mais par exemple être un bureau de change de la monnaie locale, utiliser un fournisseur d'accès à Internet associatif, des petites choses comme ça qui rendent aussi plus crédible dans le projet, qui permettent de les visibiliser. Ce qu'il faut savoir aussi et qui est très pratique, c'est que d'avoir pignon sur rue, ça permet vraiment de gagner en crédibilité auprès des acteurs institutionnels, auprès de la presse, etc. Et ça, c'est quelque chose qui fait quand même changer d'échelle dans la manière dont on s'adresse à des interlocuteurs quand on fait du plaidoyer, quand on, enfin, voilà, dans plein de contextes. Et donc ça, c'est la partie un peu qui permet de se tourner vers l'extérieur avec les bases, mais il y a aussi une partie qui est vraiment tournée vers l'intérieur, plutôt où les bases, ça sert de base logistique pour organiser les réunions, d'être libre d'organiser des réunions tout le temps quand on veut, et de donner de l'accès à des salles de réunion pour des collectifs qui veulent pas forcément se déclarer en association, qui ont besoin de soutien. Donc ça permet aussi vraiment de filer des coups de main à d'autres orgas, et d'organiser des actions du coup, parce que c'est pas forcément facile de louer une salle quand on dit bah c'est pour organiser une action de désobéissance civile, ça passe pas tout le temps. C'est aussi des espaces de stockage où on peut mettre plein de matériel d'action, de manifestation ou même d'assaut qui ont besoin de stocker du matériel d'atelier vélo par exemple, des trucs comme ça. Et ça, donc ça c'est l'aspect logistique, mais aussi l'aspect économique, financier. Alors les bases, elles sont pour l'instant, elles sont toutes en location chez des propriétaires privés et parfois auprès de mairies. Mais je vais y revenir un peu là-dessus plus tard parce que c'est pas forcément la meilleure solution. Mais du coup, ça coûte des sous. Mais quand on arrive à s'en sortir bien avec les activités qu'on fait, etc., en organisant des soirées qui font revenir un peu de l'argent, ça permet, avec ces sous qu'on engrange, alors je dis engranger, mais c'est pas non plus des milliers de cents, hein, on va pas se mentir, ça permet d'alimenter les luttes par le fait de, en pouvant acheter du matériel, des choses comme ça. Et du coup, pour ça, on fait il y a le fonctionnement classique, mais aussi on organise des soirées de soutien, soit pour soutenir le lieu en tant que tel, mais soit pour soutenir aussi une orga ou un autre lieu dans la ville qui a besoin. Donc ça, c'est assez chouette. Et du coup, ça, là, vous devez maintenant un peu mieux voir comment ça s'organise tout ça. Mais du coup, qu'est-ce que ça apporte? Je l'ai dit un petit peu, ça génère vraiment une dynamique qui rapproche les orgas, et donc qui permettent de s'identifier, de créer aussi plein de moments informels, parce que c'est aussi, enfin, c'est des lieux qui sont quand même assez festifs. Il y a des temps très studieux, des ateliers, des machins, mais il y a aussi des soirées de célébration, il y a des soirées post-électorales, il y a des soirées plein de prétextes qui sont reliés aux luttes, mais pas forcément, et qui permettent de tisser des liens. Et en fait, moi, c'est mon expérience personnelle, et c'est aussi, je pense, le cas de beaucoup de monde, c'est qu'on rejoint les groupes militants pour des sujets, mais on y reste parce qu'on se fait des potes. Et du coup, on essaye d'entretenir ça au maximum, surtout dans un contexte où l'extrême droite gagne de la place, où les gens se replient sur eux-mêmes. C'est hyper important d'avoir ces lieux de convivialité et de liens qui sont vraiment la clé, quoi, pour se donner de l'énergie dans les luttes. Donc voilà, à part ça, c'est aussi, un peu par la constitution de ces lieux-là, c'est quand même un des lieux de résistance contre les idées d'extrême droite. Mais on a aussi un petit peu peur de s'il y a de la violence qui est légitimée par l'accès au pouvoir aux élections, etc., de l'extrême droite, d'être potentiellement des cibles faciles. Donc c'est aussi des questions qu'on se pose. Et puis il y a un petit truc que j'ai pas forcément épilogué là-dessus, mais il y a vraiment une dimension où les gens ils viennent pour des sujets locaux, mais ça permet aussi de se relier parce qu'on est un réseau à des sujets plus globaux. Et du coup de se rendre compte que en fait la base, si on vient à la base de Marseille, on se rend compte qu'il y a une base à Nantes et que en fait qui travaillent sur les mêmes sujets, et ça permet aussi de se remonter le moral et se donner de la force. Et aussi de voir qu'on peut se mobiliser.
Ah, je ne sais pas si c'est moi, mais ça coupe. Allô, allô.
On t'entend. Ouais.
Je ne sais pas si Juliette, tu nous entends, mais je crains que ça ait coupé. Ben peut-être, je propose de garder, ouais.
Ah, j'étais sur la fin, donc je pense que je peux passer la parole.
Eh ben super. En tout cas, merci beaucoup, et c'est vraiment une belle démonstration que ces lieux peuvent servir à plein de choses différentes et puis complémentaires. Et peut-être pour clore aussi le tour de à quoi servent ces lieux, qu'est-ce qui s'y passe, je voulais te donner la parole, Tic, sur la ZAD et tous les lieux. Et les lieux qu'il y a là-bas, vous les avez animés pendant très longtemps. Et à quoi est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça vous a permis, et qu'est-ce que vous y avez fait, et quel choix politique vous avez fait aussi dans l'animation de ces lieux?
Ouais, bah peut-être un truc intéressant, ça serait de dire c'est quoi aujourd'hui après plusieurs années. Juste nommer, j'ai l'impression, un lieu comme l'accueil qui était en bord de route et la bibliothèque du Talus. C'est des lieux qui se sont faits à une époque où l'imaginaire de la ZAD monté par les médias était très attaquant et offensif, mais aussi dans des milieux militants, une manière d'accueillir qui des fois est pas très facile pour d'autres gens de s'y raccrocher. Et je pense que ça, dans les lieux, des fois on se rend pas compte à quel point en fait un lieu ne fait que renvoyer une identité à d'autres et du coup n'est que repoussant envers d'autres gens, quoi. Du coup, ça, c'est le Talus ou l'Ambazala qui se sont montés avec une vision d'essayer de s'ouvrir à d'autres que des militants chevronnés vivant dans les conditions de la ZAD, et à des moments aussi d'essayer de trouver des manières de faire chantier, des manières de trouver du confort dans ces lieux-là. Des lieux qu'on peut chauffer, du coup, il peut y avoir des réunions, et en fait, qui correspond aussi à des besoins, et puis aussi à ce que d'autres gens puissent rejoindre ces lieux-là. Et ces deux lieux qui nous ont permis de garder des liens avec des gens, à la bibliothèque, ça nous a beaucoup permis, durant ces 10 ans, de garder le lien avec ce qu'on appelle ici les cheveux gris. C'est-à-dire que la lutte ici, elle a été beaucoup pétrie, traversée, faite et animée par des gens qui étaient à la retraite et qui avaient une déter de ouf et qui aujourd'hui sont plus âgés et on garde des liens avec certaines, d'autres on a perdu de vue. En tout cas, les rencontres autour de livres et tout, ça a été des manières de vraiment, durant ces 10 années, de garder le lien. Et l'Ambazada, qui est un autre lieu plus grand et dédié à l'international, ça a continué de tisser ces liens internationaux, de faire venir des gens de partout, et qui était une occasion de se raconter des histoires de l'autonomie. Et j'ai l'impression que ce que fait aussi le fait d'être pas juste un lieu, mais en territoire, ça fait qu'il y a plein de gens qui traversent ces territoires-là en allant peut-être à des rencontres. Ça sert à organiser des rencontres, ces lieux-là, où il y a 3000 personnes. Mais aussi, du coup, à se retrouver pris, à rester après, filer des coups de main dans une ferme, et en fait, à pas être pris que dans l'aspect militant, intellectuel, ou l'aspect manifestation, mais être pris dans la question de l'autonomie matérielle. Et comment ça, c'est pas délié des enjeux autres de soutien, d'offensivité. Ces lieux permettent ça. Et aujourd'hui, ça en est où? Il y a pas mal de fatigue ici. Il y a plein de choses. Le pari de s'organiser collectivement, horizontalement, où il y a tout un tas de tensions entre nous et qui peuvent être fatigantes. Mais ça continue, et j'ai l'impression que un territoire rural comme ça, chacun peut aussi se mettre sur ses activités artisanales agricoles. Le fait d'être irrigué, d'avoir d'autres gens, c'est éminemment important pour garder le feu de l'autogestion, ou en tout cas comprendre les enjeux ailleurs. J'ai l'impression que moi, pas mal de gens autour ont été assez reconfigurées par les questions décoloniales et internationalistes ces dernières années, qui étaient avant étaient très localistes là sur la ZAD. Et voilà, des histoires de lieux. Et après, vous pouvez me poser des questions sur le truc d'urbanisme et de chantier, mais le temps file, donc je te laisse aller vers la suite.
Carrément, merci. Justement, on va parler de ça dans la suite. Vous avez pas mal parlé de l'importance de s'autonomiser, vu la montée de l'extrême droite, vu aussi la répression des lieux historiques, les expulsions, et puis l'usage détourné, enfin, c'est peut-être son usage de base, mais du contrat d'engagement républicain et des attaques sur les assos, quoi. Enfin, en tout cas, de la volonté de censure de nos activités politiques et de comment ces lieux aussi sont des moyens de s'en émanciper. Je voulais du coup vous poser la question de comment est-ce que vous pensez la pérennisation de vos lieux sur le temps long. On sait qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup d'énergie au lancement, mais qu'aussi ça pose vachement la question de comment est-ce qu'on garde cette énergie et comment est-ce qu'on s'assure que le lieu continue d'exister. Et puis ça, c'est une question qui se pose pas mal et ça rejoint les questions là que je vois dans le chat de modèles économiques, d'animation, de sociologie, peut-être des gens qui y participent aussi. Donc voilà, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez des petits conseils sur la question de la pérennisation et de l'autonomisation de ces lieux? Comment est-ce que vous avez fait? Et puis, sur ce thème-là, je voulais quand même faire une petite remarque de l'ordre de... pour préparer ce webinaire, on a invité pas mal de collectifs qui animent des lieux, notamment des cafés associatifs. Et pas mal d'entre eux nous ont dit, on trouve ça super et on aimerait que plus d'initiatives comme ça existent, mais on ne peut pas se permettre de s'exprimer et d'avoir une parole si politique que ça publiquement, parce que on serait menacé, que ce soit par des réseaux politiques de droite ou d'extrême droite, que ce soit par des élus, des menaces aux subventions, etc. Donc voilà, ce truc-là existe vraiment et je voulais quand même aussi le visibiliser, le fait que rien que dans le fait de s'exprimer, tout le monde ne peut pas le faire malheureusement et des gens qui animent des lieux ne peuvent pas le faire en l'état. Mais bref, je reviens sur ma question. Comment est-ce que vous pensez à la pérennisation un peu sur le temps long? Est-ce que vous avez des petits conseils sur comment le faire? Et je redonne peut-être pour commencer la parole à William, à Nancy.
Yes. Merci pour cette question. Je pense qu'elle est centrale. En fait, elle a vraiment permis à des personnes comme nous qui étions dans des recherches de transformation de notre engagement. On voulait vraiment sortir des habitudes justement de un peu de réunion éternelle entre militants qui se connaissent et pour essayer d'avoir un impact et puis essayer de trouver d'autres manières d'agir. Et la question de Antidote, la question que pose Antidote, c'est en fait si on te fait un bail de 99 ans, ça veut dire que on est parti du principe avant même que notre collectif Ancrage existait, que notre collectif il allait mourir. C'est-à-dire que dès le début, on n'avait pas encore écrit les statuts, que c'était de dire ok, Ancrage ça va mourir, on ne sait pas quand, mais en fait ça va éclater. Et en fait cette réflexion, je l'ai pas dit et puis vous regarderez dans les détails les trucs que j'ai mis si ça vous intéresse, c'est que en fait tous les collectifs meurent. Et en fait, généralement, quand ils meurent, on finit par se bastonner entre nous, entre militants, là, même si on a plein de superbes idées en commun au début, à dire non, mais moi j'avais mis plus d'argent, non, mais en fait, dans les statuts, on avait écrit que c'était peut-être moi qui pouvais récupérer la part ou je sais pas quoi. Et on finit par utiliser le droit pour s'attaquer les uns les autres. Et là, le fait de directement mettre à distance, de dire en fait, on va pas avoir de part dans le truc, on doit se poser la question de comment on va transmettre l'outil. Pourquoi? Parce qu'on a un bail de 99 ans et parce qu'on se projette directement sur la question des différentes générations. Et on est toujours un peu sur ce truc de oui, il faut occuper l'espace, occuper le territoire, occuper tout ça. Mais en fait, on pense pas du tout à occuper le temps. Et en fait, le temps, j'enfonce un peu la porte ouverte là. Je fais de la philo vite fait. On est vraiment dans la culture de l'instantané. On est dans une société hyper instantanée, tout ça. Bon, j'imagine que les personnes, si vous êtes là, c'est des choses qui vous parlent. Et en fait, pour autant, collectivement, on n'arrive pas à se réapproprier le temps. À la limite, on va se dire « Ah oui, il va y avoir 2027, ça fait 3 ans qu'on se le dit. » Mais globalement, j'entends jamais des militants se dire « Ouais, vas-y, en fait, 2035, 2040, collectivement, on sera là. » Et on sera capable de se dire ça. Et c'est vrai que nous, dans notre collectif, à notre petite échelle, on a réussi à se dire « Bon, ok, nous, on tient 5 ans. Dans 5 ans, il faut qu'on commence à avoir des gens un peu solides. Et on fait en sorte que dans 10 ans, ce soit plus nous. » Et commencer à avoir des réflexions comme ça, ça change complètement le rapport aux personnes, ça change complètement le rapport à la façon de s'organiser, puisque les personnes, on va pas être tout de suite dans un truc de ah ouais super, ah bah viens et tout, ah bah qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble la semaine prochaine, ou ah ça te dit bah viens vite à la réunion parce qu'on est toujours en déj de militants, de militantes et de forces vives. Là on est dans un truc, des fois on est vachement plus genre ouais ok bah on verra, et puis c'est quoi, prends le temps, et peut-être dans 2 mois, dans 3 mois on verra, et puis si dans 6 mois peut-être t'es encore un petit peu là. Et puis nous on est beaucoup marqué par ça à Nancy parce qu'on a une vie très étudiante et beaucoup de passages. Très caricatural, les gens après ils vont vers des grosses villes, ils vont vers Lyon, ils vont vers Paris, ou alors ils vont vers le sud, ils vont faire des trucs ailleurs, quoi. Et donc nous en fait on est vachement plus attentifs de dire oh, ok d'accord, on voit si les gens ils sont de passage ou non, et en fait du coup on se dit ok, comment sur le long terme on va composer. Et en fait les gens qui restent, les gens qui sont sur le long terme, bah, généralement c'est les gens qui sont peut-être moins mobiles aussi. Ça pose la question des classes sociales, qui c'est qui a les moyens de bouger, qui c'est qui fait les études, qui c'est qui va changer de ville, qui c'est qui machin, qui c'est qui en fait a pas le luxe de se barrer et qui reste dans le quartier. Et donc ça décale le regard, et en fait le fait de changer le regard sur la temporalité, et ben ça amène à regarder en fait qui c'est tes voisins et avec qui tu vas devoir composer sur les 5, 10, 15 prochaines années. Donc il y a vraiment un truc comme ça qui est à des endroits, je me suis noté ça aussi parce qu'il y avait un peu l'idée de filer un petit peu des conseils. C'est que je trouve que globalement, dans les milieux militants, on a vraiment des difficultés à dire non, à dire stop. On ne veut pas s'organiser avec tel type de personnes parce qu'on est dans des, à mon sens, c'est quelque chose qu'on partage un peu dans Ancrage, on est toujours un peu dans des fantasmes de l'horizontalité, de « ah, ça doit être accessible à tout le monde et tout le temps ». Et en fait, en vrai, on gomme un peu les individus, les individualités, les expériences. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a assumé complètement, mais pour des raisons à la base, même pas théoriques, hein, pour des raisons vraiment pratiques, on s'est dit, on doit acheter un bâtiment. On avait une pression de ouf parce que en fait, les propriétaires qui le vendaient nous ont dit, on a réussi à négocier un truc de, on a 2 ans pour trouver 400 000 euros. C'était ça notre réalité. Et là, on s'est dit, bon, en fait, on va pas faire l'horizontalité de l'AG où tout le monde donne son avis. C'est mort. Si on fait ça, en fait, on n'y arrivera jamais. Donc, on a assumé de fonctionner en cercle fermé en disant, on est fermé. Par contre, quand on sera ouvert, on sera vraiment ouvert. Et en fait, c'est ce qu'on, du coup, on a fait ce programme-là, quoi. On a fait 2 ans de fermeture et à travailler comme des bourrins. Et par contre, après, on a commencé à ouvrir. Et là, on s'est dit, on va aller chercher des personnes. Et on a assumé d'avoir des logiques qui sont pas du tout instinctives quand on a le logiciel plutôt, justement, d'ouverture et à des endroits, je dirais, de vouloir être très inclusif, mais sans jamais vraiment le formuler de comment on va l'être. Je trouve que des fois, on fait un peu cette erreur-là. Et du coup, ce qu'on a fait, nous, là, dans la phase, on est dans cette phase-là, où on a 5 ans d'existence, 2-3 ans où on a laissé les personnes venir dans le bâtiment, un peu voir quels étaient les usages, et en fonction des usages, après on construit en fait les groupes. Donc on assume à des endroits des différences d'expérience qui sont spéciales. Parce que c'est plus de l'horizontalité, on peut pas dire qu'on est dans des rapports complètement hiérarchiques, parce qu'on est quand même toujours dans cette culture d'assemblée, de composer et d'essayer de faire le plus possible avec les personnes du quartier, en partant vraiment de la base, toujours de la parole des plus éloignés, quelque chose comme ça. Par contre, il y a un moment où on a assumé de dire, une des choses qu'on a faites, c'est de dire, allez, on a fait un questionnaire en disant, ok, il y a des personnes qui sont... qu'on voit régulièrement, et donc en fait on leur a dit bah vas-y, est-ce que ça t'intéresse de vraiment monter à bord du truc avec quelque chose un peu formalisé et de sortir de la culture toujours de l'implicite des réseaux militants, où pour comprendre ok c'est quoi les mécanismes, ok c'est quoi ce truc militant, alors ok vous êtes des anards, ah non vous êtes plus des anards, ah, ok alors il y a les machins, vous êtes écolo mais aussi écolo, et vous êtes plutôt féministe mais féministe de cette tranche là ou machin. Et en fait à chaque fois c'est hyper dur des fois de capter. Et du coup, on a assumé de dire, nous, on va poser des questions très claires, on se présente, on dit c'est quoi notre objectif, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils voudraient mettre dans le lieu. Et après, en fait, on a composé une nouvelle type de gouvernance en prenant les réponses des personnes, en voulant savoir qu'est-ce qu'elles voulaient mettre dans le lieu. Et après, on a retricoté une gouvernance plus ouverte avec des nouvelles personnes. Et en fait, moi, ce que je dis, je ne sais pas, c'est pareil, c'est une sorte de concept, quoi, mais c'est vraiment essayer d'être et radical, est toujours ouvert. Et c'est un peu ça qu'on cherche avec les personnes avec qui on cherche à composer. C'est des personnes qui n'ont pas peur d'être radicales dans leur critique. En fait, ce qui nous permet de dire concrètement, là, l'exemple que tu viens de dire, Victor, les gens, ils ne peuvent pas critiquer parce qu'ils dépendent de structures institutionnelles. Nous, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Franchement, que ce soit sur la Palestine ou critiquer critiquer le racisme des institutions, le Parti socialiste en fait qui se comporte vraiment comme des merdes. Hein. Moi, j'ai pas peur de dire des trucs comme ça. À échelle locale, on a vraiment des aberrations où on voit vraiment qu'il y a des, je sais pas, des racines coloniales dans la gauche et qui deviennent évidentes. Enfin, ça devient criant. Et il y a bien un moment, il va falloir le nommer. Et ça, c'est des trucs qu'on commence un petit peu à nommer. On commence à se restructurer. Parce que justement, en fait, on a une liberté de parole et parce qu'on est, on a voulu décentrer du militantisme habituel. Et je le place un petit peu comme ça. Mais moi, c'est vraiment l'expérience là, dont j'ai envie de témoigner aussi. C'est qu'il y a, ça sert à rien de réinventer l'eau chaude toujours aussi entre militants, militantes de la gauche déjà organisée. Je ne sais pas exactement c'est qui le public et qui m'écoute là, c'est un peu bizarre, je suis dans mon bureau tout seul quoi. Mais il y a quand même un truc où il faut réussir à décaler de nos habitudes où c'est la gauche qui va trouver les solutions. Parce qu'il y a déjà, moi, ce que je vois un petit peu à Nancy, mais aussi en France et surtout probablement à l'international, des traditions d'organisation et aussi dans d'autres quartiers, dans d'autres communautés, des personnes qui savent déjà très bien s'organiser, ils connaissent vachement la solidarité. Ils savent faire de la solidarité en réponse à l'extrême droite. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils sont déjà en train de vivre des situations que nous, plus, là je me dis un peu le nous plus qui venons de côté militant blanc, là je mets là-dedans, il y a déjà des gens qui sont en train de vivre ces situations d'extrême droite et d'exclusion et de ségrégation et en fait c'est nous qui avons à apprendre de ce qui se passe déjà et pour ça il faut remettre un petit peu d'humilité et visibiliser les privilèges. Et moi c'est vraiment un truc que j'ai appris dans ce que permet Antidote, c'est de visibiliser les privilèges de classe, c'est vraiment se poser la question qui a de l'argent. C'est pas grave, c'est pas un tabou, c'est pas, on va pas mourir en disant ah bah je suis fils de plutôt bourgeois, bah moi plutôt généralement ils ont enfin plutôt prolo, et en fait qu'on arrive à se dire c'est quoi les différences de classe pour qu'on arrive sincèrement à se dire ok qui part d'où et qui va où, et aussi d'autres formes de privilèges, évidemment les privilèges de genre et les privilèges raciaux qu'il faut nommer pour pouvoir regarder un peu et comprendre la situation actuelle et pourquoi elle est si pétée à échelle nationale ou internationale. C'est bien parce que aussi on a une gauche qui n'arrive plus à regarder. C'est pas pour rien que les LFI ou machin, ils se font défoncer. C'est parce qu'ils commencent à se positionner sur des questions de ce type-là depuis quelques temps, quoi. Et du coup, voilà, moi, c'est un peu ça que je dis, c'est d'oser regarder et sur du long terme, et en même temps, oser regarder nos voisins et oser apprendre des personnes qui sont déjà autour de nous. C'est un peu ça que je dirais. Et peut-être, je finis avec un truc de plus administratif. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur, je sais plus quoi, les montages économiques. Enfin, moi, typiquement, je suis vraiment je sais pas, l'archétype du mec qui fait la fac de lettres, qui sait rien faire en fait, à part théoriser quoi. Et en fait, il y a un moment, il faut décaler. Et à un moment, bon, qui sait qui fait la compta et en fait, qu'on a des outils et qu'on a la capacité d'avoir des outils et justement parce que des personnes un peu de mon groupe là, on avait des privilèges parce qu'on avait un peu le réseau, on était un peu des artistes. On était un peu voilà, dans le quartier, je vous disais, le modèle un peu culturel, contre-culturel, un peu tout ça. On a des moyens. Bon, bah, à un moment, on se responsabilise et on ne cherche pas, entre guillemets, je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, à se dire, bon, bah, allez, on va acheter quelque chose à la campagne et on va faire notre truc entre nous. En fait, on s'est dit, bon, bah, on va acheter un truc dans notre quartier et si on a des moyens d'avoir des logements, en fait, on ne va pas les mettre à notre disposition. On va déjà les mettre à disposition de personnes qui, en fait, n'ont pas accès à ce truc-là. Et pour essayer de faire en sorte que les privilèges, ils ne nous servent pas qu'à nous, parce que, je ne sais pas s'il y a des fois des héritages, du réseautage, des machins, mais d'essayer de se dire, en fait, on peut, je ne sais pas, j'allais dire, communiquer. Enfin, les privilèges, il faut s'en décaler et essayer de mettre en commun les trucs. Et donc, pour ça, il faut le visibiliser pour ensuite se dire, OK, on a une responsabilité. Et si on sait faire des tableurs, si on sait bien parler, faire des discours, eh ben, il faut les mettre au service d'une lutte qui est d'aller chercher de la thune là où elle est, de mon point de vue, et après, ne pas avoir peur de créer des outils. Et en fait, créer un outil genre comme un immeuble qui rapporte des loyers, eh ben, ça peut être vu comme un truc, ah bon, vous êtes des propriétaires, machin quoi. Non, en fait, ça peut être aussi un outil de financement des luttes. Et ça, typiquement, les subventions publiques, ils sont en train de se péter la gueule. Les fondations, ils sont, tout le monde est un peu. Enfin, on va tous chercher les mêmes fondations et ils commencent à être un peu secs. Du coup, il y a un moment, il va bien falloir qu'on ait notre autonomie. Et l'autonomie, c'est. Et là, je fais un peu une boucle pour finir là-dessus. Faut reprendre les manuels de marxisme du 19e, quoi. C'est qu'en fait, si on a nos moyens de créer notre propre richesse, on va pouvoir faire ça. Et il n'y a pas que l'imprimerie ou le maraîchage pour être. Moi, je suis passé par ces trucs-là. En fait, ça ne rapporte rien. Et les trucs qui rapportent, ce n'est pas pour rien que les capitalistes, en fait, ils achètent des immeubles. Et c'est ce que moi, je pense qu'on doit faire. C'est les gens qui ont une conscience politique aujourd'hui et des capacités d'organisation. C'est de se dire, OK, prenons du bien. Et si on en tire des richesses, tirons-en des richesses, pas pour de l'enrichissement personnel, mais pour les mettre en commun et au service des luttes, et qu'on soit autonome sur nos moyens de lutte, en fait. Voilà, j'ai fini.
Eh ben, vraiment super intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Effectivement, j'ai l'impression que c'est plein de questions qu'il faut qu'on se pose et qu'on se pose déjà dans les collectifs. Je rappelle que si vous avez des conseils, des idées, des tutos, des documents, toutes sortes de choses, même des tableurs effrayants. N'hésitez pas à balancer tout ce que vous avez dans le chat, justement pour partager, puis aussi qu'on puisse mettre en commun ces différentes ressources, ces différents conseils, quoi. On est là pour ça. Et peut-être sur cette grande question, ouais, de la pérennisation et de se poser la question de comment élargir à la fois nos luttes et les secteurs de lutte et regarder bien autour de nous. J'ai quand même l'impression que c'est pas mal une question que vous vous posez à quatre sur la question de la transmission, la question de la formation. Est-ce que peut-être vous voulez me dire un petit mot sur comment vous pensez aussi la pérennisation et le développement dans le temps du lieu?
Habibs, tu veux commencer?
Tu peux commencer, mais un peu, il y a plein de questions qui se tournent dans ma tête. Peut-être je vais commencer en fait par le. Après, vous complétez Tarek et Agatha. Ça, c'est, je dis, moi, les choses qui sont dans ma tête. En fait, parce que nous, vraiment, on n'a pas le temps du tout de réfléchir en fait comment on peut. On n'a pas cette privilège. Ça, c'est pour moi, une chose en fait. Parce que moi, j'ai passé ma vie dans le milieu squad, en tout cas dans la ZAD. La première personne qu'ils ont pris cher, vraiment, c'est les personnes qui habitent dans le habitat précaire, c'est dans la cabane. Je crois des jeunes qui sont passés à la ZAD, ils connaissent très bien toute la partie de l'Est. Ils sont fait virer parce que c'est eux qui sont précaires, qui sont payés cher. Et dans toutes les luttes, en tout cas dans le squad, le logement aussi, on se trouve en fait dans l'urgence. Par exemple, dans un squat, tu sais, si tu étais viré, en fait, c'est moi qui vais se retrouver dans la roue. Et les personnes qui sont là, soutien, en tout cas, les personnes qui ont le capital plutôt économique ou culturel, se retournent soit chez eux, soit elles se trouvent dans notre collectif parce qu'ils ont de cet privilège qui leur permet, en fait, vraiment d'avoir du choix, en tout cas, de l'autant pour réfléchir aussi. Comment je peux pérenniser un projet. Nous, on n'a pas cette. Moi, personnellement, je n'ai pas cette truc. J'ai fait un lieu et pour demain, on verra quoi. Parce qu'en fait, à l'urgence, il me faut cette lieu-là pour pouvoir, en fait, rester dans cette lieu-là d'abord et prendre même un temps à respirer en disant, voilà, je suis dans un endroit, il n'y a personne peut-être demain qui va venir faire sur cette porte en disant, dégage, casse-toi, ça ne t'appartient pas. La première chose, il y a besoin de cette lieu-là. Après, il faut que je respire pour réfléchir pour comment, en fait, avoir présenté cette lieu-là. Ça, c'est dans mon tête. Mais plutôt, aussi, on se trouve beaucoup dans le. C'est ça aussi le truc de privilège, en fait. Même sur le dossier de courir partout, en fait, il faut, en fait, tu fais des prévisionnels de 5 ans. En même temps, nous, on est tout le temps dans la merde, dans la galère, je ne sais pas comment on dit ça. On est obligé doit avoir en tout cas deux outils plutôt dans le milieu associatif qui sont plutôt qu'ils parlent à des classes plutôt privilégiées, en tout cas de comment ça s'appelle, de privilèges blancs, qui ont ces outils-là qui sont jamais peut-être partagés avec le milieu plutôt antiraciste qui sont éloignés, parce qu'en fait il y a tellement de difficultés et les personnes, en fait, il n'y a pas de partage de savoir comment on peut aller chercher l'argent public ou l'argent privé pour acheter un bâtiment, pour qu'on puisse y être en sécurité. Tout ça, on est obligé de se débrouiller pour pouvoir arriver où on est là aujourd'hui, parce qu'en fait, on n'a pas, il faut qu'on le fasse, quoi. Et plutôt dans cette lieu-là qu'on veut l'acquérir, c'est pour ça qu'on réfléchit. En fait, c'est un endroit où on peut d'abord, la première chose, accueillir des personnes dignement, parce qu'on voit aussi dans tout l'accueil qui se fait, en tout cas à la ZAD, à la squad, dans tout le milieu qu'on a passé, anarchiste et tout ça. En fait, on peut accueillir des personnes, mais en fait, la question de intervention sociale, elle n'est jamais reposée. Les questions de santé mentale, elles ne seront posées jamais. Question de l'antiracisme, en tout cas, tout ça, en fait, les personnes ne sont pas formées sur ça du tout. Et on peut t'accueillir, par exemple, dans le squat, tu as beaucoup de galères, en tout cas, galères de papier, galères sociologiques. Après, les personnes elles peuvent venir addictes d'alcool, ou en tout cas de drogue, après, elles finissent sa vie, quoi. Donc, toutes ces questions-là, en fait, si tu as un lieu, tu peux le poser comme ça, en fait, pour pouvoir, en fait, vraiment accompagner les personnes vers l'autonomie, surtout le travail, quoi. C'est très important, le travail, c'est une question de dignité de personne. Comme ça, elle ne va pas ressentir, en fait, tiens, en fait, c'est la personne qui me donne tout le temps, qui me donne la main en disant, tiens, en fait, moi, je peux faire un trou pour la personne parce que je suis privilégié, quoi. En tout cas, j'ai cette réclame, comment on peut travailler avec des personnes vraiment pour pas produire en fait de logique en silo qui c'est les personnes plus qu'ils ont pour qui donnent à celui qui a pas, quoi. Nous on fait vraiment le travail d'égal à égal. C'est pour ça Tariq, tu disais tout à l'heure, on a des difficultés de notre côté, et les agricoles aussi, dans le milieu agricole il y a des difficultés. Comment on peut traiter les questions comment on peut voir en fait le rapport de il y a des difficultés partout, venant s'asseoir par terre pour trouver de manière à travailler ensemble, quoi. Donc dans cette ferme là en tout cas, on a envie de développer l'aspect agricole, plutôt maraîchage, les questions autour de ciments paysannes et tout ça, et des personnes ils viennent, c'est un lieu de repos, de travail, et ils vont se former pour aller soit s'installer ailleurs, soit s'installer dans leur compte perso, et aussi pour pouvoir dire voilà qu'ils puissent obtenir, comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent sans renouvellement de titre, parce qu'en fait il y a vraiment je sais pas, un truc qui on fabrique des personnes sans papier, quoi. Je sais pas. En tout cas, il y a plein de questions. Je sais pas. Moi, ma tête, elle est un peu embrouillée, mais si vous voulez rebondir, regardez Tariq Gibolès, quoi.
Bah, merci beaucoup, Habib. Bah, peut-être, je pense que la première chose, moi, qui me vient à l'esprit, je sais pas, avec toute humilité, je sais pas si jusqu'à quel point on peut donner des conseils, mais en tout cas, et pour un peu revenir sur ce que disait Habib, il y a aussi ce truc que le lieu et les bases d'organisation, elles sont nécessaires, parce qu'en fait, tout le parcours et de beaucoup de gens qui sont fondateurs de l'association sont passés dans des parcours de galère et de précarité locative extrême, parce que voilà, l'instabilité de l'accueil, etc. Et premièrement, et ensuite on arrive dans des espaces militants qui finalement ne pensent pas cette question-là, ou en tout cas la posent voilà, sans se poser les questions notamment antiracistes et autres, et de classe, comme très bien l'a dit Habib. Mais après, je pense qu'il y a aussi ce truc où, en fait, quand on a commencé à créer l'association A4, cette question-là, elle revenait tout le temps, en fait, de se dire, bah, il n'y a aucun, toutes les... Enfin, c'est à la fois, on n'est pas pris au sérieux dans notre travail. Il y a une réflexion à avoir sur la question antiraciste claire dans les milieux écolos autour de ça. Que les outils ne sont pas faits pour nous, dans le sens où on a vu plein d'associations, et véridiques. On vient pour, on sait qu'il y a un lieu disponible, on veut travailler dessus, on est prêt à s'investir, à venir à plusieurs dessus, et on dit à la personne, du coup, en plus un des fondateurs, pour le nommer Bako, un des fondateurs aussi de l'association avec Habib et Idriss, on lui dit, en fait, la seule chose que tu vas pouvoir voir, c'est des diapositives en te disant, c'est quoi un tracteur ? On te met une image de tracteur, on dit c'est une brouette, etc. Du coup, on a très vite compris qu'en fait, et désolé du terme, qu'on nous chie un peu à la gueule. Enfin, qu'il y a un, c'est désolé de la vulgarité, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens, de vraiment ce un espèce de mépris déguisé qui dit pas son nom et qui fait qu'à un bout d'un moment, bah oui, en fait, on dit, en fait, soit on crève la bouche ouverte parce que clairement, on voit que toutes les manières de penser ces cadres-là et notamment cette question-là du travail comme élément de pouvoir rebondir et d'être, de sortir des modes de survie et des urgences dans lesquelles aussi, c'est une grosse critique qu'on peut faire au milieu squat et aussi aux questions de lutte aux frontières, qui pensent que la question de l'urgence et qui pensent que la question en fait de comment on stabilise mais dans une forme de précarité extrême. Mais qu'il y a une autre étape qui est nécessaire, c'est la question des lieux, c'est la question de le repos. Et je pense que là, pour le coup, même pour insister sur ça, je pense qu'il y a aussi une manière pour nous d'expérimenter, de repenser l'hospitalité aussi de manière codifiée et d'une autre manière de le codifier et de se dire qu'en fait on peut approcher l'hospitalité comme je sais pas, c'est aussi ça aussi la culture de A4 et moi j'en suis très content pour ça et que c'est un vrai échange qui s'enrichit. Mais par exemple en Bambara, l'étranger, littéralement quand on fait l'étymologie du mot, c'est celui qui vient chez toi, celui que tu accueilles. Clairement on est dans une lecture autre que celle véhiculée par la langue française. Et ça, c'est assez dingue, en fait, de voir qu'en fait, ça, c'est intrinsèque aussi à la manière dont on pense l'hospitalité. Parce que aussi, il y a aussi une grosse majorité des gens dans l'association qui sont de culture musulmane ou qui sont musulmans. Et donc, il y a aussi une manière de se dire comment on pense l'hospitalité dans une lecture musulmane. Comment, en fait, dans les pays musulmans, on accueille. Et en fait, cette question-là, elle est centrale aussi. C'est une forme de respect et qu'en fait, il y a aussi ça qui doit être pensé dans une perspective antiraciste. C'est pas que du vernis, c'est aussi de comment on se met dans une forme d'empathie aux gens, mais d'empathie réflexive et non pas seulement dans un vernis de se dire j'ai conseillé les bons mots, je dis plus les mauvais mots, je dis pas black, je dis noir, enfin bref, dans des trucs aussi qui peuvent être très caricaturaux et qui sont que superficiels. Mais si on se met dans une posture en fait d'empathie et d'essayer de construire quelque chose, mais notamment aussi de l'accueil, ben là on débloque des choses et là on crée de la convivialité et on crée des lignes. Enfin, on fait croiser des mondes qui, en fait, sinon, ne se seraient pas vus, clairement. Et ça se pense aussi à ce niveau-là. Et l'autre chose aussi, je pense que, au-delà de tout ça, il y a aussi de se dire que nous, le lieu, en tout cas, moi, personnellement, c'est aussi comme ça que je le vois, dans une forme de comment on se met en constellation. Et c'est vraiment ça, comment on se met en constellation avec d'autres lieux qui vivent des réalités similaires, etc. Et de comment on fait pour comment dire. Faire que bah advienne une espèce de logique de réseau, c'est peut-être très comment dire ambitieux et que peut-être c'est aussi, mais voilà, c'est ça aussi un peu ça la stratégie, de se dire bah comment tout de suite est pensé le lieu comme un espèce d'espace de croisement de gens qui viennent mais aussi de gens avec qui on est en contact, de le penser même peut-être même à une échelle c'est pensé à une échelle nationale avec les autres antennes, c'est pensé aussi à une échelle européenne qu'on essaye de construire mais qui est complexe parce que c'est aussi voir qui correspond un peu à nos dynamiques, et c'est aussi international parce que il y a des projets d'installation pour certains membres au Sénégal, d'autres au Mali, et avec se dire que en fait il nous faut de la circulation, la liberté de circulation, on va la créer grâce à nos lieux aussi, et c'est comme ça qu'on va l'incarner et c'est comme ça qu'on la vit, pas seulement dans une logique franco-française qui de toute façon est bloquée sur elle-même, où en fait il faut penser le monde dans son ensemble. C'est peut-être un truc un peu très cucu, mais qu'en tout cas c'est ça la perspective politique, mais dans une vraie radicalité pour le coup, pas simplement dans une lecture superficielle. Et après je terminerai sur ça, je pense que la question du lieu, elle est aussi très symbolique dans une perspective antiraciste, parce que ça fait chier foncièrement l'extrême droite, et on le voit même dans nos voyages d'enquête depuis le début, la question de l'artisanat et la question de l'agricole, elle n'est pas la même. Des gens non blancs qui accèdent à la terre, ils se font violenter, ils vivent des violences constantes. En tout cas, tous les gens qu'on a pu rencontrer, tous les témoignages qu'on a eus, il y a une grosse majorité des gens, c'est ça qui vivent. Dernier en date, un éleveur qui en fait n'a trouvé sa terre que grâce à une expatriée anglaise, parce qu'on appelle ça des expatriés pour les gens du Nord qui visitent le Nord, quoi, la blague. Mais et du coup, qui lui a vendu sa terre parce que en fait, il a jamais réussi à accéder à la terre avant, parce qu'ensuite aussi on lui a dit, il y a eu plein de tentatives d'intimidation qui l'ont conduit à l'hôpital parce qu'il a fait un arrêt cardiaque. Et donc du coup, il a changé même d'espace et il s'est mis ailleurs et c'est comme ça qu'il a rencontré cette dame là. Voilà, en fait, il y a un truc aussi où si on peut faire un pied de nez, un gros doigt d'honneur à l'extrême droite, la question de l'accaparement des lieux, de la propriété, mais pour les classes populaires, parce que réellement, c'est ça aussi qu'on, sur lesquels on irrigue, même si c'est un groupe en partie qui est hétérogène, où il y a l'idée aussi de faire bénéficier les privilèges des uns pour les autres, et pas dans un truc paternaliste, mais vraiment de se dire de coopération. Et dans ça, je pense que, et c'est aussi ça, toutes les rencontres là qu'on a eues, notamment avec un foyer à Montreuil qui est en train de subir une répression énorme, et voilà, et de l'interdiction de l'accueil, etc. Parce que je le pense aussi dans cette perspective urbaine de, en fait, c'est quoi l'immigration aussi en ville, et de se dire qu'en fait, jamais on pense, et c'était fou parce que c'est des gens, voilà, qui luttent depuis depuis 40 ans à l'échelle de leur foyer pour pas mal de restrictions qu'il y a eu. Et là, surtout que, parce qu'on, en gros, pour le faire en cours pour les gens qui savent pas, mais on passait de foyer de travailleurs immigrés à résidence sociale. Et donc, avec une restriction de l'accueil, des espaces collectifs, etc., qui est vraiment un mouroir parce que pour preuve, encore il y a quelques semaines, on a appris qu'il y avait quelqu'un qui était décédé et qui est resté deux semaines avant d'être découvert. Quoi. Ça montre le côté horrible de la manière de qu'est-ce qu'on veut faire des anciens, des travailleurs retraités, immigrés, quoi, qui ont bossé et qui ont donné leur vie à ce pays. Mais bref, mais se dire que eux, dans leur perspective, la question de se dire, on accède au lieu, on accède en fait à la propriété de ça, on, c'est nous ça leur semblait, enfin, que de se dire que ça a jamais été pensé, mais parce qu'en fait, voilà, c'est qu'en fait, quand on est issu des milieux populaires, en fait, on est coincé, en fait, on n'accède jamais à ça. Et de se dire que ça, c'est aussi un pied de nez, de se dire, on reprend des lieux, parce qu'en fait, on voit qu'il y a un déficit du service public, et ça, pour le coup, c'est cool, parce que j'ai l'impression que ça fait écho avec tout ce qui a été dit auparavant. Et donc, se dire, en fait, c'est un moment, sinon, on ne crée pas nos propres outils aussi d'accueil pour les nôtres, pour les gens, en fait, qu'on voit qui sont marginalisés, bah, alors à quoi on sert? Et donc, vraiment, il y a cette question-là de se dire, bah, c'est aussi ça. Et peut-être la proposition qui peut être faite, ou la tentative, c'est de se dire, bah, on peut penser le plus fou et la propriété, ou en tout cas l'accession au lieu, quand en fait on est dépossédé de tout, et notamment quand en fait on est dans des dynamiques de ville, en quartier populaire, et avec toute la répression qu'on prend dans la gueule actuellement. Voilà. Merci.
Merci à toi et à vous surtout. Tu parlais effectivement d'attaque et le fait que ça fait chier l'extrême droite. Vous avez, si je ne m'abuse, complètement été même la cible d'attaque en Bretagne sur des installations que vous avez. Et ça, c'est quand même aussi important de le rappeler, quoi, physiquement.
Oui, oui. Et peut-être juste pour terminer, c'est que pour dire, on l'a, parce que c'est pas clair, mais qu'en fait, on lance aussi bientôt une cagnotte pour une levée de fonds pour l'achat de cette ferme en Île-de-France, et que j'espère qu'on pourra la faire tourner dans différents réseaux et pouvoir animer des événements pour pouvoir acheter ce bien, parce qu'on n'a pas les fonds nécessaires pour. Merci.
Ben, merci à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans le chat des moyens de vous soutenir les uns les autres et de plus d'infos aussi sur vos différents projets de lieux ou lieux déjà existants, hyper important. Puis oui, comme disait William tout à l'heure, voilà, ces lieux ne peuvent exister aussi que parce qu'ils sont collectifs et parce qu'aussi on repartage les privilèges de certains. Donc voilà, bref, relayons cette cagnotte et relayons aussi les moyens de vous soutenir les uns les autres. Et je sais pas si Juliette, tu nous entends, et si toi tu veux dire un petit mot aussi sur la façon dont vous pensez la question de la pérennisation des lieux, et puis peut-être pour rebondir aux questions du chat sur ce qui est lié à la question du modèle économique aussi et de la façon de partager l'usage. J'ai cru comprendre que c'était aussi un enjeu chez vous de garder ces lieux vivants dans la durée.
Ouais, carrément, et c'est vraiment un challenge, parce que bon, déjà créer un lieu, c'est un challenge, parce que quand on est un groupe de bénévoles qui a eu l'habitude de se mobiliser, mais surtout sur des actions du militantisme de terrain, mais enfin voilà, qui c'est des petits budgets, etc. Gérer un lieu, ça prend tout de suite une ampleur d'un point de vue administratif et financier qui est assez nouvelle, et donc c'est des nouveaux challenges. Mais du coup, il y a vraiment un enjeu qui est central là dans les bases, c'est la question de l'autonomie financière et politique. En fait, il faut savoir que les bases, c'est des lieux qui sont indépendants les uns des autres et autonomes financièrement. Donc chaque base, c'est une association propre qui se gère, qui et qui du coup fonctionne en autonomie. Et donc le réseau des bases, c'est surtout un réseau d'entraide et de et d'interconnaissance, enfin de partage de d'informations, de coups de main, etc. Mais il y a pas de réseau financier autour de ça. Et l'indépendance, elle est aussi, on y arrive a priori à cultiver une indépendance politique vis-à-vis des municipalités. Justement parce qu'on s'est un peu cassé les dents sur ce sujet-là. Par exemple, il y a à La Roche-sur-Foron, donc c'est en Savoie, il y a une base qui est née. Et en fait, c'est la mairie qui a mis à disposition, moyennant un loyer, mis à disposition un bâtiment municipal pour que la base puisse se créer. Et en fait, quand est arrivé le sujet des contrats d'engagement républicain, il y a le maire qui a rajouté une petite clause spécifique pour qu'il n'y ait pas d'activité politique dans ce lieu. Et du coup, le groupe Alternativa et NVCOP21 et d'autres orgas de type Extinction Rébellion, Attaque, je ne sais plus qui était visé précisément, mais ont dû se retirer du lieu. Sous peine, enfin avec la peur que sinon la mairie fasse vraiment fermer le lieu et du coup que ça casse complètement la dynamique. Donc ça a été vraiment pour nous c'est un échec parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à trouver une solution qui a réussi à s'adapter et à être indépendante malgré le contexte, enfin qui est restée indépendante, mais du coup au détriment du fait que ça continue d'exister. Je vous rassure, le lieu existe toujours, mais du coup les organisations considérées comme politiques sont obligées de pas s'afficher, ne peuvent pas faire de réunions publiques, etc. Donc c'est quand même un gros coup dur pour la mobilisation dans cette ville-là. Mais du coup c'est un retour d'expérience que on prend très très au sérieux pour les prochaines villes, enfin pour les bases qui continuent de se créer, etc. Et justement parce qu'en fait avec les changements de municipalité, c'est trop fragile de dépendre d'une volonté politique. Donc là actuellement, les autres bases fonctionnent vraiment de manière autonome et du coup ne dépendent pas de financement, enfin de subventions du fonctionnement. En fait, on s'autorise à utiliser des financements publics, mais uniquement pour des événements, ce qui fait que, ça met pas en question la vie du lieu. Donc c'est assez central ça maintenant. On a essayé aussi de faire d'autres modèles de base, notamment la base de Nantes, dans sa première version, c'était un squat, notamment avec la Maison du Peuple de Nantes qui était très axée sur l'accueil de personnes dans la grande précarité, de personnes en début de parcours de migration, début de parcours en France, je veux dire, beaucoup d'arrivées. Le lieu qui a été occupé par la base et la Maison du Peuple a été évacué et du coup toute la dynamique militante autour de ce lieu-là s'est complètement écrasée et il a fallu plus d'un an et demi afin de repouvoir acquérir un lieu et de pouvoir lancer un projet qui maintenant est en bonne santé, etc. Mais c'est quand même quelque chose de où on s'est dit en termes de dynamique militante, dynamique de groupe, etc., difficile de monter un lieu. Donc si il est trop fragile comme ça, c'est vraiment compliqué. Alors d'aujourd'hui, on a les groupes locaux, les groupes des bases, etc., ont pas du tout les moyens de devenir propriétaires de leur lieu. Mais c'est quelque chose qu'on commence à réfléchir parce que en fait. Les propriétaires privés, ça nous donne une stabilité parce que, a priori, quand ça se passe bien, il n'y a aucune raison de se faire expulser. Mais n'empêche que un bail qui arrive à la fin, c'est potentiellement la fin d'une base, comme ça a pu l'être à Toulouse, qui ont dû rendre leurs locaux là en décembre. Et du coup, c'est très très dur de continuer une dynamique dans ces conditions. Voilà, je vous parle des mauvaises nouvelles, mais il y en a plein pour qui ça va bien. Dans ce sujet-là de la des finances. En fait, là, le fait d'être locataire des bases, ça implique de payer un loyer chaque mois. Et du coup, concrètement, les modèles économiques de ces lieux-là, c'est d'avoir une activité régulière qui rapporte de l'argent. Donc, par exemple, le bar qui tourne lors de soirées, d'événements, etc. Louer des espaces de travail quand il y a de la place. Il y a des choses qui sont imaginées comme des ateliers, de la sérigraphie pour pouvoir vendre des t-shirts de seconde main avec du travail d'artiste, enfin des pièces d'artiste et du coup, voilà, il y a plein de trucs qui sont inventés pour que ça puisse faire rentrer de l'argent. Mais le danger, c'est de trouver un bon équilibre entre s'organiser pour rapporter des sous dans le lieu, pour payer le loyer, et en face, garder le message politique qu'on veut porter, soutenir des activités qui ont du sens. J'ai l'impression que ça rebug. Non, c'est bon.
Ça fonctionne.
Ah ok, super, trop bien. Et du coup, il y a l'enjeu financier qui est pas évident, et ça implique d'avoir une bonne gestion comptable, et en fait, quand tout le monde est bénévole, c'est pas évident de se former, mais c'est des choses qu'on apprend et qui de toute manière sont nécessaires. Donc voilà. Ça c'était un peu sur l'aspect autonomie financière et politique, mais il y a aussi l'aspect de mobilisation, parce que comme c'est des lieux portés uniquement par des bénévoles. Il faut faire vivre la programmation, la communication, le fait de rendre le lieu rangé, propre, fonctionnel, de gérer les réservations de l'espace, tout ce que vous pouvez imaginer de la gestion d'un local. Ça, c'est pas très fun, toute cette partie administrative, de gestion, etc. Donc, en fait, il y a ce gros enjeu de faire en sorte que les militants se relaient pour les tâches les plus pénibles, que les gens y trouvent du sens à s'engager là-dedans. Et c'est pas si facile, parce qu'en fait, les gens viennent au début quand on monte le projet, parce que c'est hyper stylé de créer son lieu, etc. Mais ensuite, c'est plus dur. Donc, on essaye d'inventer des choses comme pour rendre attractif le fait de s'investir dans les lieux en organisant des chantiers. On a organisé des chantiers à la base de Marseille, de Grenoble, bientôt de Bayonne, pour justement qu'il y ait des militants qui passent d'une base à l'autre, qui se rencontrent, qui aillent dans cette dynamique de réseau, d'entraide, etc. Et puis que ça redonne un peu la pêche de voir que d'autres font des projets similaires. Ça marche pas mal. Pour pérenniser le lieu, il y a aussi de faire des événements un peu exceptionnels, du genre fêter l'anniversaire des 1 an de la base ou des choses comme ça qui permettent de se dire ok, on fait de la gestion, mais là on va organiser un truc super cool, donc en fait on sort de notre routine et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et de se donner un objectif temporel par une date un peu cool. Donc voilà, c'est des challenges qui sont constants et qui sont vraiment là avec le retour d'expérience de pas mal de bases qui sont vraiment, enfin c'est vraiment un enjeu ça, d'entretenir la bénévole militante, parce qu'en fait c'est vraiment trop précieux ces lieux. Quand des gens arrivent et qu'ils n'ont pas vu forcément le travail de création, c'est un peu difficile de se rendre compte que ça a peut-être de la gueule, mais il y a peut-être que 5 militants derrière qui font la gestion, et que du coup, si on fait pas certaines choses, ça se casse la figure. Donc, très important de réussir à transmettre aussi la responsabilité et de ne pas s'ancrer autour de certains militants piliers qui ont trop de choses en tête et qui, du coup, centralisent trop de pouvoir aussi dans les organisations. Mais du coup, je terminerai... Alors, je réponds à ta question, David. Alors, tu sembles parler des bénévoles militants autour des lieux. Qu'en est-il des militants bénévoles salariés de l'Interasso? Tu parles du coup du réseau des bases, de cette dimension plus globale portée par Alternativage, j'imagine? Ah, des assos du lieu. Eh ben, en fait, il n'y a pas de salariés. En fait, il y a les bases, souvent, elles sont créées par un ensemble de collectifs qui ont des bénévoles ou des salariés. Mais souvent, c'est des assos bénévoles. Et en fait, le lieu, enfin, la base, l'association, la base, il n'y en a aucune qui a des salariés pour la gestion de ce lieu. Il y a des services civiques dans certaines, comme à Rouen, par exemple. Mais ces lieux ne payent pas de salaire actuellement. C'est des réflexions qu'il y a. Il y a eu des lieux dans le réseau des bases qui ont eu des salariés. Et du coup, ça complique aussi beaucoup la question des ressources financières. Et notamment, est-ce que ça s'adosse sur des subventions, etc. Mais là, actuellement, dans le réseau, il n'y a aucun salarié dédié à la vie de ces bases. Voilà. Et du coup, pour clarifier, moi, personnellement, je suis salariée d'Alternativa et mon rôle, c'est d'animer le réseau des bases, mais du coup, je ne suis pas investie ou impliquée dans la vie des bases. Mon rôle, c'est juste de faire du lien et de mettre en place des outils pour favoriser cette vie de réseau entre les bases. Et du coup, c'est financé par la vie du mouvement Alternativa et du coup des dons, etc. Des financements privés. Qui ont comment dire, qui sont en phase avec nos valeurs. Et du coup, pas de financement public non plus. ça me fait une bonne transition pour parler dire un dernier mot sur ce réseau, parce que là j'ai beaucoup parlé des bases, comment elles fonctionnent, mais aussi ce réseau. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de bases qui ont existé. Il y en a 12 qui existent à ce jour, mais il y en a qui ont dû fermer, il y en a une notamment qui a brûlé par un incendie dont l'enquête n'a pas abouti sur qui est responsable, mais on sait que c'est un incendie volontaire. Donc il y a une nouvelle base à la place, ça c'est à Rouen. Il y a des bases dont le bail est arrivé à la fin, etc., comme à Paris ou à Toulouse. Mais c'est un réseau qui vit, il y a des nouvelles bases, il y en a qui meurent, etc. Le but, c'est qu'on grandisse. Mais du coup, ça nous fait beaucoup de retours d'expérience qui sont vraiment très utiles pour les nouvelles bases qui se montent. Et ça, c'est vraiment très précieux. Je ne sais plus qui en parlait un peu plus tôt, mais cette dynamique de réseau, de donner une portée plus globale à ce qu'on fait, c'est aussi hyper précieux. Voilà. Et puis... Puis du coup, ça donne vraiment de la force aux militants au niveau local de se rencontrer et de se dire « Ah, vous faites ça comme ça, nous, on fait autrement », et se donner des conseils de manière plus large. Bah, d'ailleurs, on a fait un week-end de rencontres entre les bases il y a 2-3 semaines et ça vraiment, on sent vraiment que cette notion de réseau, elle est hyper importante et qu'elle est très porteuse pour les bases. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment continuer à faire et qui contribue à la pérennisation dans le sens où ça renforce vraiment les lieux. Voilà, je m'arrête là-dessus.
Eh ben, merci beaucoup, Juliette. Le temps passe quand même fortement maintenant. Ça fait une heure et quelques, plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Et avant de te passer la parole, Tic, peut-être aussi sur cet aspect pérennisation et de conclure, n'hésitez pas à poser des dernières questions dans le chat si vous en avez, et puis surtout à mettre aussi des liens, on fera un récap à la toute fin de tous les liens et des façons de vous soutenir et de vous suivre. Voilà. Mais Tic, du coup, vous, la question de la pérennisation, ça se pose, j'imagine, de plein de manières, et je crois aussi sur la question des chantiers.
Oui, en tout cas, il y a plein d'aspects dans la pérennisation qui dépassent ce qu'on nommait avec Amada 4 sur l'instabilité des squats. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a à la fois les dynamiques internes, comment ça fonctionne, et à la fois les véritablement juridiques, à la fois les questions de propriété, mais à la fois les questions de droit de l'urbanisme, de plein de choses comme ça. Je vais pas m'étaler parce que ça serait une longue histoire sur ça. J'ai juste, moi, ça me, notre discussion, elle me pose une question sur le besoin de lieux un peu étendards dont on a besoin parfois pour que des qu'on prenne des dynamiques et tout, et le besoin de lieux qui soient sans doute plus discrets, mais où les liens, les solidarités peuvent se faire, mais qui sont pas forcément étendards, quoi. C'est les questions de réseau, enfin. Voilà, en tout cas, des choses auxquelles m'a fait réfléchir à la discussion. Mais peut-être on laisse le temps aux questions.
Eh bien, s'ouvre un temps de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat, si vous en avez. Et peut-être, ouais, aussi sur des questions très pratiques de comment vous avez fait. J'ai vu qu'il y en avait eu plusieurs. Vous y avez un peu répondu aussi à vos manières sur les montages économiques, les conseils, aides et contacts pour résoudre. Est-ce que vous avez encore des choses à dire dans le chat? Si ce n'est pas le cas, peut-être, et juste pour faire un dernier tour de conclusion, vous l'avez un petit peu évoqué et l'intérêt des réseaux aussi de lutte. N'hésitez pas aussi à dire un petit mot sur en quoi c'est utile, et puis les réseaux qui existent, vers qui se tourner. On a cité Antidote, on a cité les bases, on a cité les nouvelles de la ZAD, A4 Asso, reprise de savoir, mais voilà, pareil, si vous avez d'autres réseaux de lieux, des endroits où trouver des conseils, c'est toujours très bienvenu. On fera un petit récap côté Terre de Lutte et une publication pour en parler. Et puis ouais, je sais pas si Tic, tu veux développer peut-être sur la question des chantiers, tu as eu peut-être un peu moins la parole que les autres.
Moi, j'avais donné Sauveur, il devait partir. C'est Habib.
Ah oui. Okay. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour conclure, ouais.
Je laisse Tarek, je crois, elle va terminer la réunion, mais moi, je devais aller. Je vous laisse. Merci, Victor. Okay. Victor,
bah, merci beaucoup.
Et à bientôt. Merci, tout le monde.
Merci, bonne soirée.
Ouais, sur les chantiers, juste nommer en fait les, je sais pas qui exactement, tous les gens qui sont là, si vous voulez monter des lieux, si vous en tenez déjà. En tout cas, il y a des configs de lutte différentes. Hein. Par exemple, le mouvement anti-bassine, il n'a pas fonctionné depuis des lieux, et pourtant ça a été un mouvement très fort et avec des BNM dans plein d'endroits, mais il n'y a pas de lieu étendard, par exemple. Donc il y a des possibilités comme ça de faire des choses, mais le fait d'avoir des lieux, et le truc, c'est que ça prend pas mal de temps et d'énergie, mais en même temps, bah, c'est là que se passe la vie, quoi, au-delà des questions militantes, une vie autre, et qui peut rejoindre les questions que Tariq a amené sur le travail. Enfin, ça veut dire que c'est vraiment des bases matérielles où s'interroge autre chose dans le quotidien, nos besoins, nos subsistances et tout, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a, il faut quand même prendre des mesures de ça, et ce qu'avait nommé William était assez intéressant là, quand on s'est rendu compte de ce que c'était l'enjeu de devoir acheter ce lieu, bah on s'est mis à une équipe à aller à fond, et on a réouvert ensuite, et du coup j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, les chantiers aussi prennent du temps, mais c'est des endroits où on apprend des choses de ouf, et du coup il faut juger de comment tenir des lieux. Les construire fait partie de l'aventure. Enfin, et c'est pas une chose annexe à l'aventure, comme un appui ou un outil intégré dans l'aventure de ce qu'on a à faire ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que les autres voulaient nous dire un petit mot de la fin pour conclure ? Aussi sur ces questions de réseau et de petits conseils pour la suite.
Moi, je peux juste dire déjà merci beaucoup pour l'invitation, c'est super. Pour les personnes qui ont écouté jusque-là. Et après, qu'est-ce que je peux dire sur les réseaux, peut-être quand même, parce que s'il y a des personnes qui creusent un peu ces questions-là, il y a le clip qui existe aussi, qui est un montage qui ressemble beaucoup au nôtre, ou nous au leur plutôt, parce que c'était le clip qui existait avant nous. Et du coup, voilà, il y a différentes manières de mettre un peu à distance les questions les questions de propriété, je ne sais pas, moi, si j'ai envie de finir sur quelque chose, ce serait plutôt de dire qu'on a, oui, voilà, intérêt, j'ai l'impression, et à se poser de plus en plus, de manière de plus en plus précise, les questions de l'organisation, d'organisation matérielle, et de plus en plus de faire justement ce qui a déjà été dit du fonctionnement réseau, et de comment on arrive à. Comment on arrive justement à des endroits à centraliser certaines compétences, parce que moi, je vois il y a beaucoup de lieux qui se fatiguent énormément à avoir leur comptable, à avoir leur personne qui va faire du juridique et tout, alors qu'en fait, si tu te mets à 3-4 lieux et que tu as une personne qui fait ça, qui peut filer la main, donc voilà des logiques de centraliser. Mais bon, je pense que Terre de Lutte, vous êtes des bons moteurs là-dedans pour essayer de fédérer, pour réduire les pertes un peu d'énergie ou ce genre de choses. Donc moi, c'est un peu ce que je dirais, quoi. N'ayons pas peur de composer, et qu'en fait, des fois, on a une petite tendance à être un peu, entre guillemets, individualiste en tant que collectif, et du coup, moi, j'aurais tendance à encourager les fédérations de collectifs. Donc voilà, c'est un peu le mot que j'ajouterais, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée à tout le monde.
Merci beaucoup à toi. Je sais pas si Tariq ou si Juliette voulait dire aussi un petit mot pour conclure.
Oui, j'ai l'impression que j'ai bien fait l'apologie du réseau. mais c'est super intéressant de voir que les dynamiques dans différents milieux, en milieu rural, en milieu urbain, de manière un peu solo sur des sujets, ou alors en réseau. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, et c'est trop bien de se partager des ressources et tout ça. Et moi, je pense que ce que j'ai envie de dire là sur la fin, c'est allons visiter les lieux des autres, et c'est trop bien ça, parce que c'est hyper nourrissant, et selon les contextes, on a des solutions différentes à proposer, donc vous êtes les bienvenus en tout cas dans les bases partout en France, et moi ça me donne très envie d'aller visiter tous les lieux dont vous avez parlé là. Donc merci beaucoup pour l'invitation.
Merci beaucoup, et à vous d'être venu et de nous avoir raconté ça. Petite précision, l'enregistrement de ça sera sur le site de Terre de Lutte bientôt, d'ici quelques jours, a priori, ou une semaine grand max. Et vous pourrez diffuser ça à d'autres personnes si ça vous a plu. D'ailleurs, il y en a aussi 6 autres à réécouter sur le site, si jamais ça vous intéresse, de creuser les questions de réseau de ravitaillement, réseau de soins mutuels de matériel, et autres que j'oublie, mais assemblées populaires, etc. Tout aussi intéressant les uns que les autres. Je vous ai mis aussi une petite carto qu'on a produite suite à ces webinaires de lieux de ces collectifs-là. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et je te donne la parole, Tariq, pour le mot de la fin.
Merci. Merci beaucoup surtout de l'invitation et de la richesse de ces échanges qu'on n'a pas toujours et qui, à mon avis, sont très importants, et notamment. On va le répéter, la question de la transmission, elle est centrale. Donc, plus on mutualisera, mieux ce sera, et que c'est important de multiplier les temps comme ça d'échange, surtout dans des réalités, dans des perspectives et des stratégies différentes. Et par rapport à ça, et la question de, je pense que nous, la manière dont on le pense, c'est que c'est une stratégie parmi d'autres de comment faire face et comment s'organiser, ou en tout cas comment essayer de recréer un bloc, ou en tout cas une réflexion autour de l'antiracisme et de la question de l'immigration, parce que nous on la prend comme un tout, dans le sens où on se dit pas que l'immigration s'est arrêtée dans les années 70-80, mais que c'est une réalité constante, et qu'il n'y a pas d'exilés, il n'y a pas de migrants, il n'y a pas de sans-papiers, mais il y a une histoire politique et de commun à créer à l'endroit de l'immigration qui est un peu déconnecté, et que souvent dans le terrain, les luttes des quartiers populaires tenues par les descendants de l'immigration sont très éloignées des espaces de lutte sur les questions de régularisation, alors qu'on a du commun à créer. On est une communauté de destin et on n'a pas le choix. Dans cette stratégie un peu de faire advenir ce bloc antiraciste, en tout cas, qui percole à tous les niveaux de la société et qui prend en question à la fois les questions d'exil forcé, de lutte aux frontières, mais aussi des luttes des quartiers populaires, qu'elles soient les violences policières ou qu'elles soient les violences islamophobes ou les questions de répression des droits des personnes qui viennent sur le territoire français. Et donc, ça fait partie un peu de cette stratégie-là, de se dire le lieu comme base, comme lieu de rencontre, comme lieu de convivialité, aussi basique que ça, mais qui est aussi important pour créer de la connexion entre des espaces qui n'ont pas la possibilité de se parler. Et qu'après, je pense que le lieu, il est de toute façon vu comme pour nous, il y a une multitude de couches. La question des lieux, elle est importante, mais elle n'a pas de logique si elle se pense en îlot. Elle doit se penser automatiquement comme constellation. Dans la dynamique de ce qu'on essaye de faire, les réseaux d'entraide, c'est des lieux, c'est des espaces, c'est des trucs un peu flous et un peu plastiques qui changent et qui se modèlent selon. Mais en fait, laisser des lieux, c'est aussi permettre de sanctuariser des espaces de lien aussi grâce à cette entraide-là et qui peut exister réellement et avec des lieux amis, etc. Et que voilà, j'ai l'impression que pour nous, il y a cette succession de couches, comme je le disais tout à l'heure, avec l'idée aussi de perspective aussi internationaliste et de se dire que voilà, le moteur, ça doit être la liberté de circulation, mais aussi de ce qu'on porte, nos savoir-faire et notre vision aussi politique qu'on espère qui puisse faire commun en tout cas autour de ces perspectives-là pour qu'il y ait d'autres groupes qui nous rejoignent et voilà, et on voit qu'il y a de plus en plus ces perspectives-là qui se font et des croisements qui ont lieu et donc pour nous on tient quelque chose. Après voilà, en toute humilité, je ne sais pas si on y arrivera jusqu'au bout, mais voilà, on a cette perspective-là.
Eh ben, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est une perspective partagée. En tout cas, continuons les échanges et continuons de bosser ensemble sur des lieux et mille autres choses pour le faire. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se tient au courant pour la suite. N'hésitez pas à diffuser ce petit webinaire autour de vous. Très bonne soirée. À la prochaine.